Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio.
Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson.
Cube Radio.
Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de vous joindre à moi. Hey, jour 1 de la semaine de relâche, 1er mars, plusieurs élèves à la grandeur du Québec bénéficient, à mon sens, de ce congé salutaire. Les profs aussi, en passant. Je pense que on en avait bien besoin, surtout face à la remontée des cas dans les écoles. Et là, il a fait vraiment très, très beau en fin de semaine, du moins à Montréal. Là, hier, je suis allée me promener, même pas de manteau. Là. C'est là qu'on était. Ma mère me disait en avril, tu te découvres pas d'un fil. En mars, il n'y a pas de consigne. Il n'y a pas de consigne, donc on peut faire ce qu'on veut. Et il y a bien des gens qui font un peu hein, ce qu'ils veulent en ce moment, puis je les comprends. On est tanné, on est en vacances, plusieurs ont pris congé. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que je serai en congé jeudi, vendredi. Vincent Dessoureau me remplacera. Mais voilà, j'ai l'impression qu'on fait des exceptions. Tout le monde fait ses propres exceptions. Hier, sur les médias sociaux, c'était vraiment le festival de tout ce qui était le fun de faire. Même que j'étais un peu jalouse. C'est rare là, que je vis ça. Je suis capable de relativiser habituellement là, par rapport à ce que je vois sur Instagram, sur Facebook. Parce que je sais, là, quand tu te chicanes avec ton chum, tu fais pas un pause pour le dire. Quand ton enfant joue dans le nez, tu le prends pas en photo. Quoique, ça m'est déjà arrivé de le faire. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Dans le sens où on publie seulement nos plus beaux moments et ça fait miroiter aux gens qu'on a une vie absolument extraordinaire et merveilleuse. Mais hier, vraiment, j'étais à bout. J'étais à bout de voir les gens s'être loués des chalets avec des amis, partager sur les médias sociaux des photos de façon tout à fait éhontée, là, même pas gênée de le faire. Là, à 8-10 sur le bord d'un feu, pas de problème. Des gens qui font des soupers, qui se voient dehors à beaucoup, là, plus que ce qui est permis en ce moment. Parce qu'on a l'impression, avec les beaux jours, là, puis on en reparlera un peu plus tard, on a l'impression que le pire est derrière nous. Hein, on a connu ça l'été passé, une espèce de trêve. Là. On pouvait sortir, on pouvait voir des gens à l'extérieur. Et là, j'avais vraiment l'impression qu'en fin de semaine, c'était ça. Là. C'était la scène 2 de ce même film. On se disait, écoutez, on va avoir un break, le vaccin est là, les cas sont bas, et là, ça va pas aider. Aujourd'hui, 613 cas supplémentaires, ça continue de descendre. Malheureusement, encore toujours des gens qui meurent, 6 décès. Histoire aussi assez troublante, là, un jeune homme de 27 ans qui a perdu la vie des suites de la COVID-19, donc ça arrive pas juste aux vieux. Puis j'ai envie de dire, tu sais, c'est plate, on en parlait tantôt avec Benoît Dutrisac, à un moment donné, il va peut-être falloir considérer vacciner les gens qui sont actifs dans la population, là, les gens qui travaillent, les parents, les profs, les éducateurs en garderie, parce que les exceptions, là, ça va être de plus en plus. Les gens ne veulent plus adhérer, les gens veulent faire plein d'affaires, puis il y a des incohérences. Qu'est-ce que vous voulez? Tantôt, je reparlerai avec Julie Marcoux là, d'une gang à Bromont. Trois couples d'amis qui se sont fait prendre par la police ont décidé de faire un feu à l'extérieur, dehors. C'est interdit, t'as pas le droit, mais à côté, t'as une station de ski avec plein de skieurs qui sont collés les uns sur les autres. Fait qu'à un moment donné, où est la logique? Je peux pas en vouloir aux gens de se dire, ben écoute, je vais faire une exception puis je vais gérer mon exception. C'est pas ça qu'on veut, mais c'est ça qui se passe. Donc, il faut se grouiller les vaccins. Montréal, c'est une chose, mais il y a d'autres régions au Québec où on est en zone orange, donc on a plus de droits, on a la possibilité de faire plus de choses, mais si on est en zone rouge et qu'on se rend dans ces régions-là, les mêmes règlements s'appliquent. Et là encore, c'est un peu compliqué. C'est le cas du Saguenay. On va parler avec Josée Néron, qui est mairesse là-bas. Madame Néron, bonjour.
Bonjour, Madame Peterson.
Bon, évidemment, on peut comprendre là, des résidents des zones rouges profitent de la semaine de relâche un peu partout au Québec. Vous êtes visité au Saguenay par plusieurs touristes des régions rouges. Finalement, on a très envie d'y aller par chez vous. Comment ça se passe, là, premièrement, le retour à la zone orange?
Ça se passe très bien. C'est sûr que c'est très agréable de pouvoir retourner dans nos restaurants, pouvoir magasiner dans nos petites boutiques, retourner au cinéma, nos salles de spectacle. Je pense que tout le monde avait hâte de revenir vers ça. Et je le souhaite à l'ensemble du Québec. On sait qu'ailleurs, c'est pas la même chose, mais je peux vous dire que chez nous, le terrain qu'on a gagné, tout le monde ensemble, bien, disons qu'on travaille tous. Et je pense que le gouvernement est clair par rapport à ça. On a chacun notre responsabilité pour ne pas reperdre le terrain. Et ça peut se passer assez rapidement. On se souvient qu'ici, au Saguenay, malheureusement, à l'automne dernier, en l'espace de quelques semaines, on a viré dans une situation qui était vraiment non enviable. On était pointé du doigt. La pire région au Canada. Mmh. On a travaillé tous très fort. Et aujourd'hui, bien, on est de retour en zone orange et on travaille encore pour éventuellement passer au jaune, mais éventuellement au vert.
Bien, en tout cas, moi, je vous regarde et je suis bien jalouse. J'aurais bien envie d'aller magasiner à Place du Royaume puis d'aller souper au Temaki.
Bien d'ailleurs, envie. Vous êtes originaire de la région. Alors,
bien sûr.
Je vous y revenais à l'occasion.
Bien oui, mais là, je me garde une petite gêne en ce moment. Pour vrai, moi, j'ai ma mère qui est encore là-bas puis on fait attention puis on a bien hâte de se voir. Ça fait presque un an qu'on ne s'est pas vu. Mais oui. Là, dites-moi, est-ce que vous avez beaucoup de monde de l'extérieur par chez vous? Là? Parce que je le disais, on est le premier jour de la semaine de relâche, plusieurs personnes ont pris congé, plusieurs personnes veulent faire des activités avec les enfants. Avez-vous de l'affluence de l'extérieur pas mal?
Oui, c'est sûr qu'il y a, je vais vous dire, on le sent, les gens de la région ont pris d'assaut les centres de ski de fond et tout, mais on a également naturellement des visiteurs de l'extérieur. Maintenant, je pense que le gouvernement a été assez clair là-dessus. C'est permis de pouvoir se promener entre régions, mais on demande à tous et chacun de respecter leur bulle, on le sait, les gens n'ont pas le droit d'aller manger, d'aller s'asseoir dans les restaurants, de créer un genre d'indépendance finalement là, vis-à-vis le milieu extérieur et de respecter toujours les consignes, distanciation, lavage de mains, port de masque, bon, on le répète depuis un an, mais je pense que, comme je le disais tantôt, si autant les gens de l'intérieur de la région que ceux de l'extérieur veulent continuer de pouvoir profiter du fait que nous sommes en zone orange et d'autres régions le sont également, bien, c'est à tous et chacun de faire, je vous dirais, son effort pour que les choses ne changent pas. Ce serait plate, après la semaine de relâche, que notre bilan soit quelque chose de, ben je dirais, de désastreux. Je pense que personne, autant à l'intérieur de la région qu'à l'extérieur, on veut voir les choses changer. Au contraire, on veut tous s'entraider pour pouvoir ensemble progresser et s'en débarrasser de cette fameuse COVID-19-là.
Mais Mme Néron, je lisais des témoignages de restaurateurs, de commerçants, là, notamment des gens qui possèdent des relais de motoneige. Évidemment, si tu es en zone rouge et que tu viens visiter la zone orange, tu dois manger à l'extérieur. Je pense que c'est bien clair. La plupart des clients semblent accepter ça, savent ça quand ils se déplacent. Il y en a, par contre, qui sont pas contents. Il y a certains restaurateurs et commerçants qui se plaignent de devoir jouer à la police. Puis c'est pas vraiment leur rôle.
C'est pas une situation qui est évidente. Je vais vous dire, même nos commerçants, notre commerce de détail aussi, on doit, entre guillemets, jouer à un genre de police quand on rappelle aux gens, bon, le port du masque et tout ça. Mais qu'est-ce que vous voulez? On vit dans un monde de pandémie. Alors, on a des consignes. C'est la santé publique qui les a éditées. Alors, on se doit. Moi, je le fais comme municipalité. Alors, les gens d'affaires doivent le faire dans leur propre commerce, que ce soit un commerce de passage là, pour des motoneigiste ou un petit commerce ou un petit restaurant ici au centre-ville. Donc, oui, c'est quelque chose qui est restreignant, mais on ne le fait pas pour le plaisir, on le fait vraiment pour qu'ensemble, on puisse tous s'en sortir parce que le phénomène de pandémie, c'est tout simplement la possibilité d'une multiplicité de contacts. Hein? Alors, si je suis porteuse, moi, je peux avoir l'air d'une fille très sympathique, mais si je porte le virus et que je me promène comme si de rien n'était, bien, je risque de propager mon problème à d'autres et on l'a vu que ça a donné ailleurs. Ouais. Ben, donc, c'est embêtant. C'est étonnant et je peux comprendre que des fois, on se compare avec d'autres situations puis on se dit, ben, c'est discutable. Mais écoutez, c'est la santé publique qui l'a demandé, alors on suit les règles.
Bien, je le comprends, mais il y a des petites incongruités là, quand même. Exemple, si je viens de Québec, faut que je garde mon heure de couvre-feu, même si je viens au Saguenay. Je veux dire, faut que je rentre à 20h puis le couvre-feu est à 21h30 là-bas. C'est dur pour la police même d'appliquer ça. Là.
Vous avez tout à fait raison. C'est sûr que ça devient très compliqué de vérifier, bon, ben, un, si la personne est, de trouver qui entre 20h et 21h30 oui. n'a pas d'affaire à être dehors. Mais vous comprenez que, bon, c'est, je pense que, comme le dit le gouvernement du Québec et la santé publique, c'est à chacun de prendre ses responsabilités. Alors, rendu là, la police, c'est sûr qu'elle fait son travail.
Ben oui, puis qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui ont des résidences secondaires au Saguenay? On les considère comment? Tu sais, si moi j'ai ma résidence principale à Québec, mais j'ai un chalet, c'est Mont-Valin, puis je viens toutes les fins de semaine, je suis considérée comme un habitant du Saguenay? Comment ça marche?
Je vous dirais que je suis pas de la santé publique, mais d'après moi, ce que je pourrais comprendre, c'est qu'une personne qui vient de l'extérieur, qui a une résidence, sa résidence principale est à l'extérieur, elle est considérée comme une personne qui vit à l'extérieur. Okay. Donc, si elle vient d'une zone rouge, elle vient d'une zone rouge.
Je veux qu'on se parle un petit peu, Mme Néron, de l'hôpital de Chicoutimi. Quand même, là, la plus grande éclosion de la deuxième vague de la COVID en centre hospitalier est survenue à cet hôpital-là. Un travailleur sur six aurait contracté le virus. Est-ce qu'on sait pourquoi c'est arrivé?
Écoutez, je vais vous me poser une question. Je suis pas la directrice générale du CIUS. Là. On n'a pas vraiment eu nécessairement d'explication publique sur la chose, mais je sais que à quelque part, ce qui a été bien dans tout ça, c'est que il y a eu énormément d'aide de la part des autres régions du Québec. Quand on a été dans la première vague, on s'en sortait bien de oui. notre côté, et on a eu à aider les autres régions du Québec qui, eux, avaient un petit peu plus de misère. Dans la deuxième vague, ça a été un peu l'inverse. Donc, les problématiques qui ont été vécues au CIUS par l'aide, il est venu des gens de l'extérieur. Et on a également eu des cas qui ont été transférés à l'extérieur de la région en travaillant ensemble. Et on sait que c'est pas pour rien qu'on met toutes les mesures en place.
Mais oui.
Principalement, c'est pour essayer d'aider nos gens du système de santé parce qu'on sait qu'il y a pas mal de pression là-dessus.
Ben oui, donc, mais là, la situation, est-ce qu'elle est revenue à la normale à l'hôpital de Chicoutimi?
Oui. Oui, les choses vont bien. C'est sûr que le nombre de cas, dans notre cas, est vraiment là sous contrôle. On a il y a une douzaine de cas actifs. Il y a deux nouveaux cas depuis la fin de semaine. Alors, vous voyez qu'on est vraiment là dans des situations entièrement sous contrôle. Les choses vont bien.
Bon, en terminant, Mme Néron, là, vous êtes en zone orange. C'est le début de la semaine de relâche. C'est le début de la vaccination. J'imagine comme bien des maires, des mairesses, vous êtes préoccupée par le fait que les gens croient que la pandémie peut-être est terminée. Là.
Je vous dirais, moi, que la population de Saguenay, j'entends plutôt des gens qui ont hâte de se faire vacciner. Les gens comprennent qu'il y a comme une étape supplémentaire à passer, c'est la vaccination et qu'ensuite, oui, on pourra tranquillement, mais sûrement se dire qu'on gagne du terrain. Donc, ce qu'on entend, c'est que les choses, quand même, là, il y a eu comme une vague de ralentissement. On attendait des doses. Là, ça recommence. C'est quand même un bon succès au niveau, là, de la vaccination. Il y a toutes les places en l'espace de 24 heures qui ont été comblées dans les principaux points de service, que ce soit dans l'arrondissement de Chicoutimi, à Jonquière, à l'Abbé ou à Allemand. Donc, on commence comme tout le monde au Québec par les 85 ans. Nous, ça va commencer le 13 mars. Donc, les choses vont bon train, mais c'est sûr que tout le monde a hâte d'être vacciné. Je pense que pour nous, c'est la prochaine étape.
Très bien. Josée Néron, qui est mairesse de Saguenay. On se parlait des résidents de zone rouge qui profitent de la semaine de relâche pour visiter les zones orange. Comme le Saguenay, et j'en profite pour respécifier que ce sont les mêmes règles qui s'appliquent, c'est-à-dire que si vous êtes un habitant de la zone rouge et que vous vous rendez en zone orange, vous devez suivre les mêmes consignes de santé publique que si vous étiez dans votre région, et c'est-à-dire aussi respecter le couvre-feu de 20 heures.
Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson,
Cube Radio.
On est avec Nicole Gibeault. Salut, Nicole.
Bonjour, Geneviève.
Écoute, nouvelle de dernière heure, le DPCP qui n'ira pas en appel pour contester l'acquittement de Sabrina Rose Dufour. C'est une femme, on s'en était parlé, qui a subi de la violence conjugale et qui a été, si on veut, acquittée pour homicide involontaire. La légitime défense, c'est comme ça qu'on peut appeler ça, j'imagine.
Oui, tout à fait. C'est exactement ça. C'était une défense de légitime défense. Faut pas oublier non plus qu'elle était enceinte et victime, comme tu dis, de violences conjugales. Alors, le 29 janvier, ça fait pas si longtemps, un jury avait décidé de prononcer un verdict d'acquittement. Alors, un acquittement par un jury, essayer de renverser ça, c'est extrêmement difficile, premièrement. Et deuxièmement, ça prenait vraiment une question de droit où il y avait eu une erreur de commise, soit dans les directives, souvent, là, de donner par le ou la juge au jury. Alors, le DPCP a vérifié tout ça. Il n'y a pas de question de droit qui pouvait être soulevée selon eux. Et à mon avis, là, c'est une bonne décision du DPCP. Là.
Oui, bien, Sabrina Rose-Dufour, qui a été très émotive et qui a commenté de la façon suivante, elle a dit « J'espère que ça pourra donner espoir à certaines femmes ».
Oui, et non pas un billet puis une permission de tuer son conjoint.
Non, non.
C'est pas ça, là. Mais évidemment, et on a beaucoup de, tu sais, j'ai beaucoup d'empathie puis de respect pour la famille de la personne qui est décédée aussi. Mm-hmm. Il y a quand même une personne de décédée. Mais on est dans une situation extrême qui a apporté une défense extrême et particulière. Et voilà, c'est les conséquences que ça a donné.
Bon, là, on va revenir sur le fameux dossier « Dis son nom ». Nicole, moi, je suis assez surprise et circonspecte, puis tu vas pouvoir m'expliquer. Là, je pense qu'il y a bien des gens qui se posent des questions. Les administratrices de la liste « Dis son nom », on s'en rappelle, le « Dis son nom », c'est une recension en ligne qui fait la liste de présumés agresseurs. C'est une liste qui a été mise sur pied cet été dans la foulée des dénonciations, l'espèce de pendant à MeToo, le prolongement de MeToo qu'on a connu cet été. 1500 noms quand même sur cette liste-là là, qui s'allongeait. Un homme qui a été listé sur cette liste, Jean-François Marquis, poursuit au civil les deux créatrices de la page. Il y en a une qui est sortie de son anonymat, Delphine Bergeron. Là, c'est une ancienne illustratrice judiciaire. Mais l'autre, par contre, voulait bénéficier en fait de son anonymat, voulait conserver son anonymat. Donc, il y avait un interdit de publication. On pouvait pas parler d'elle. On pouvait pas rien dire. Sauf que là, il y a un juge qui a dit « Ben non, ça se pourra pas. » C'est un juge de la Cour supérieure, par ailleurs. Là, donc, ça s'est rendu très loin parce qu'elle, ce qu'elle invoquait, c'est qu'elle était une victime d'agression sexuelle et comme elle était dans son processus de guérison, elle ne se sentait pas assez forte en ce moment pour agir de manière publique, donc pour que son nom soit révélé. Là, c'est une décision quand même qui est surprenante. En tout cas, moi, ça me surprend, tu vas me l'expliquer. Puis l'autre pendant à cette décision-là, c'est qu'on oblige aussi les deux créatrices de la liste à révéler qui a dénoncé cet homme-là.
Oui. Ben non, moi ça me surprend pas du tout au niveau juridique.
Mais c'est ça.
Et non seulement ça me surprend pas au niveau juridique, et je vais tenter de te l'expliquer, mais ça n'aurait eu à mon avis aucun sens d'accepter l'anonymat. Et voici pourquoi. Un, lorsqu'on dénonce quelqu'un par les médias sociaux, c'est un choix qu'on fait, mais on fait pas un choix juste d'un côté. On fait un choix global avec les conséquences. Les conséquences sont oui, on peut faire face, et on dit bien peut faire face, à une poursuite en diffamation, surtout lorsque la personne, parce qu'il y a, l'autre côté de la médaille, là, que ce soit un homme ou une femme, là, l'autre côté de la médaille, c'est qu'il y a quelqu'un qui est accusé et qui dit « j'ai jamais rien fait, c'est pour moi ». C'est des accusations fausses par vengeance, etc. J'ai eu des pertes, donc un préjudice. J'ai perdu ma job, j'ai perdu mes amis, j'ai perdu tout ça. Ça, c'est le pendant civil. Et ça, ben, quiconque s'implique dans une dénonciation publique sur les médias sociaux, autant où on les fait pour les accusations criminelles, on menace quelqu'un sur les médias sociaux, ben on fait face à une accusation criminelle. Autant où dans les réseaux sociaux ou dans les médias sociaux, si on fait une dénonciation et que cette dénonciation s'avère fausse pour toutes sortes de raisons et qu'il y a des conséquences pour la victime, là on parle pas de la victime d'agression sexuelle, on parle de la victime d'une fausse allégation. Là. Alors dans ce sens-là, oui, il y a le droit à une réparation et préjudice, et oui, ça, mais on poursuit qui? Ça n'existe pas l'anonymat en civil, on peut pas poursuivre quelqu'un. Je poursuis monsieur ou madame X parce qu'il m'a fait du tort. Donc il faut l'identifier, il faut questionner cette victime, cette pas la victime, mais il faut questionner la personne qui a dénoncé. Il y a tout un système au civil, des interrogatoires hors cours, des vérifications, etc. Mm. Et le processus d'enclenchement d'un procès civil, c'est pas du tout la même chose.
Okay. Moi, j'ai une question. Excuse-moi, Nicole. Si, mettons, la personne ou les personnes qui ont dénoncé Jean-François Marquis décident finalement de porter plainte de façon officielle, est-ce que ça change quelque chose?
Porter plainte, on parle criminel ou civil, parce que là, ils sont engagés dans une poursuite civile. Là, eux autres, là, ils ont fait un choix, et ils vont être obligés d'accepter les conséquences. Et M. Marquis a fait son choix et a décidé de poursuivre en libelle diffamatoire, puis a décidé. Là, les victimes potentielles, si c'est le cas d'agression sexuelle, ne pourront plus reculer. Là, il y a une ordonnance de la Cour, il faut qu'ils dévoilent leur nom. En criminel, puis il n'y a pas de prescription, là, on s'entend, ni au civil, ni au criminel, les victimes, les victimes d'agression sexuelle pourront déposer, ils peuvent toujours déposer des plaintes au niveau criminel pour agression sexuelle.
Mais ça ne change rien sur la façon dont ça va être perçu au civil.
Non, au civil, là, absolument pas. Au civil, là, la personne qui veut poursuivre doit connaître la personne et doit pouvoir se préparer, doit pouvoir dire, « Hey, moi, c'est tellement faux ce que vous avez allégué, vous m'avez fait perdre mon contrat de 50 000 ou de 10 000 ou de 3 000, et voici pourquoi. » Puis là, on a le droit de questionner. Moi, j'en ai fait tellement comme avocat des interrogatoires hors cours, etc. On trouve plein d'affaires là-dedans. Là. Mm. Alors, c'est ça la conséquence lorsqu'on décide de... Et le fait de dire que je suis en processus de réhabilitation parce que j'ai subi
une agression
sexuelle,
de guérison,
c'est tout à fait correct, tout à fait légitime, mais il faut juste pas dépasser et continuer le processus de guérison. Et mais ça se complète pas dans les réseaux sociaux.
Il faut baliser ça, les médias sociaux, parce que regarde, moi, ce qui m'avait accroché aussi, c'était de dire, OK, du côté de Delphine Bergeron et de l'autre personne, les créatrices de la liste, finalement, on n'a pas fait de vérification. En même temps, c'est pas un média, ce ne sont pas des journalistes. Théoriquement, non. Elles n'ont aucune obligation éthique. Et c'est là aussi le risque de dérapage. Puis je suis absolument certaine que ces deux femmes-là, peut-être, n'avaient pas mesuré les conséquences possibles de la création de cette liste-là, si tu leur avais dit, vous vous exposez à des poursuites, ils auraient peut-être repensé à deux fois. Là.
Et là, le message est clair. Là. J'espère que le message va être clairement entendu. Oui, c'est vrai qu'un appel est toujours possible parce que toute personne a droit d'aller en appel,
ouais.
Les directrices, comme tout le monde. Mais je serais extrêmement surprise, là, mais voire même c'est le fondement même d'une poursuite au civil, de connaître la personne qu'on veut poursuivre, parce qu'on dit « vous m'avez causé préjudice, ben qui c'est vous? Alors, faut que vous vous dénonciez. » Il y a certains... Chaque cas va être un cas d'espèce. Je dirais que dans une situation bien particulière, toujours la discrétion du tribunal va pouvoir s'appliquer dans certaines parties ou de caviarder.
Mais ça pourrait-tu créer un précédent? Pour, par exemple, d'autres personnes qui sont sur la liste, puis d'autres listes, parce qu'il n'y a pas juste dit son nom, là. Il y a d'autres pages Instagram, d'autres pages Facebook, là. Je pense entre autres aux Yen en jupon. Je pense entre autres, à des pages qui visaient le monde de la restauration, des pages qui ont été retirées depuis, là. Mais quand même, dit son nom, c'était pas la seule initiative du genre cet été.
Moi, depuis le début de toutes ces choses-là, je fais toujours des mises en garde, mais évidemment, depuis le début. Et ta question, est-ce que ça pourrait être un précédent? Non seulement, je serais très, très, très inquiète si j'étais une personne qui a fait une dénonciation anonyme et qui a visé quelqu'un en particulier qui déciderait, parce que c'est un choix.
Donc, il y a des personnalités publiques qui ont les moyens financiers de poursuivre là, dans la liste.
Il y en a. Et ça va être pris d'une façon terriblement sérieuse si une personnalité qui a les moyens ou public décide de prendre des recours juste pour faire peur. Là attention, on n'est pas là-dedans. Là. Et ça aussi, ça va être... Ça, c'est pas quelque chose qui est acceptable et accepté par les tribunaux non plus.
Mais je suis pas d'accord que ça fait pas peur. Là. Ça doit faire peur aux présumées victimes.
Non, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire, le tribunal... Si jamais là, ces gens-là, tu sais, des poursuites dans un autre domaine, des poursuites baillons qu'on a déjà vues, là, si vous me poursuivez, si, arrêtez vos mises en demeure parce qu'on va vous poursuivre pour 50 000 ou 350 000. Les poursuites là, qui ont été faites à ce moment-là, ben ils sont tombés à plat. Ils sont dégonflés avec frais. Ben des frais, c'est une poursuite de 300, 400, 500 000, c'est élevé.
Ben oui. Puis tu sais, en même temps, on a une pensée pour les présumées victimes. Il y en a là-dedans que c'est vrai. Donc, c'est pas le fun. Puis on rappellera jamais assez, là, Nicole, je pense qu'on le dit souvent ensemble, là, ça a l'air décourageant le système de justice, puis c'est pas parfait, mais le DPCP rappelait l'été passé que la plupart des accusations se soldaient par des condamnations. Ça, il faut le dire, il faut le répéter. Puis avec les nouvelles lois, les victimes sont davantage accompagnées. On va peut-être, possiblement, mettre sur pied rapidement un tribunal spécial. Tu sais, il faut garder ça en tête. Il faut vraiment le garder en tête.
C'était, je veux pas le comparer à une pandémie qu'on vit présentement, mais c'est hallucinant, toutes les dénonciations, les problèmes. Alors, mais au moins, il y a une espèce d'espoir, une lumière, une lueur d'espoir avec les recommandations.
Mais ça arrive pas assez vite. Il faut que ça arrive plus vite.
Ça arrive jamais assez vite, on le sait, mais au moins, ils ont réussi à faire bouger. Alors,
t'as raison. Des policiers qui ont remis plus de 1000 constats d'infraction pour non-respect du couvre-feu juste la semaine passée. 10 000 $ d'amende pour 3 familles autour d'un feu en fin de semaine. Là, 3 couples, j'en parlais au début de l'émission, qui ont choisi de profiter de la belle température dans la fin de semaine. C'est tentant. Pour vrai, c'était tentant, là, de voir des amis dehors. Tu te dis, bon, parce que cette histoire se passait à Bromont. Tu sais, t'es à côté d'un centre de ski, là, c'est ce qu'ils ont invoqué, où tout le monde est ensemble, finalement. Puis tu te dis, ben qu'est-ce que ça change? Je vais faire un feu avec des amis dans le cours, on est dehors. Les policiers sont arrivés, ont distribué des infractions. Est-ce qu'on aurait dû les épargner? Est-ce qu'on aurait dû leur donner ces contraventions-là? Moi, je te pose la question.
Ben ma réponse d'emblée, c'est absolument pas. Et je vois même pas pourquoi, malheureusement, on va prendre un exemple parmi tant d'autres. Oui. Et on va dire ça. Je veux dire pour vrai, là, tu sais, tu dis sérieusement, pour vrai, c'est tentant. C'était tellement tentant que je vis dans une région absolument féerique. Pensez-vous qu'une seule personne où il faisait beau en fin de semaine au Québec n'a pas eu une tentation d'avoir un beau feu à l'extérieur?
Puis voir ses proches.
Et voir ses proches. Il n'y a pas personne à qui c'est pas arrivé. Maintenant, non seulement je trouve ça incroyable de le diffuser comme ça, puis c'est pas des martyrs, ces gens-là. Ils font partie de toute la population québécoise qui, eux, l'ont respecté, puis qui ont dit... Puis en plus, j'entendais le commentaire d'une des personnes dire « Ben oui, on le savait qu'on allait à l'encontre des règles, mais on était un peu tannés, et même voire beaucoup, ben je sais pas, le restant du Québec... »
Mais c'est parce que nous aussi, on est tannés.
On est beaucoup tannés, puis non, j'ai aucune sympathie. La seule chose que je peux dire, c'est qu'au contraire, je trouve que ça donne un message.
Ben oui, moi aussi.
Ils ont même vérifié auprès de leurs supérieurs, puis il n'y a personne qui va flancher. On est en période de pandémie, puis on est en période de relâche. Ça va être encore pire. Et là, je veux juste faire une parenthèse. Comparer ça à une marche sur la rue ou comparer ça à un centre de ski...
Non, il faut faire une ligne. La ligne, elle est là. Sur les terrains privés, c'est non.
Mais c'est pas juste ça. C'est que j'ai compris pourquoi, puis même si on veut pas l'accepter, j'ai compris pourquoi. Tu sais, dans une cour chez nous, où il y a des grandes portes patio, puis il y a quelqu'un dehors qui dit « Oh mon Dieu, j'ai une urgence toilette. »
Mais oui, c'est sûr. Bon, puis si les enfants gèlent, on l'avait dit d'ailleurs au point de presse, M. Legault avait répondu, avait dit « Tu sais, c'est plus tentant de rentrer si les enfants ont froid, si évident. Les parents ont froid. » Ben c'est ça.
Là, ils vont dire qu'il était 6 adultes. C'est parce que 6 adultes, là, ils peuvent avoir une urgence. Puis c'est beaucoup plus difficile de dire à ton meilleur ou ta meilleure chum « Non, je m'excuse, là, prends ton auto, puis va-t'en chez vous à la toilette, parce que tu ne peux pas. » Voyons donc.
Surtout quand t'as pris, Anne-Nicole, quand t'as pris tes petits 3 verres de vin, là, t'es bien plus relax avec les conseils sanitaires.
C'est très désolant, mais c'est moi j'ai pas vraiment pas de sympathie parce que je me dis le voisin d'à côté là qui était chez dans sa maison dehors à l'extérieur à faire son feu seul, ben lui il a pas eu de contravention.
Ben moi j'étais contente non pas que ces gens-là aient eu des contraventions parce que c'est plate là isolément, je veux dire j'ai de l'empathie pour eux, c'est dole, ils ont pris une mauvaise décision puis là ils vont avoir des contraventions quand même assez onéreuses à payer, mais tu sais avant la semaine de relâche, on se disait ça serait dommage qu'on soit juste en mode prévention. Là. Si on voit des affaires, il faudrait quand même qu'il y ait des conséquences. Là, on le voit, c'est largement médiatisé qu'il y a des conséquences. Donc, peut-être que ça va permettre qu'on n'ait pas trop une flambée des cas après la semaine des relâches. Bon, j'en doute, mais moi aussi, je trouve
aussi,
que ça sert d'exemple.
Mais mettons qu'on va peut-être les diminuer si en commençant, première journée, on a 10 000 piastres d'infraction qui est mis dans les journaux partout. Mettons que ça calme les ardeurs. Peut-être. Bon. Et c'est ce qu'on ose espérer. Ben oui, c'est vrai, tu as raison de le mentionner. Pas content, personne qui ait 10 000
Mais on souhaite pas ça à personne, là. Mais à un moment donné, si tu prends des décisions, assume-les. On se reparle demain, Nicole.
Merci, bye.
Découvrez le nouveau café érable Pacan de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la Pacan. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
Vous écoutez
Geneviève Peterson.
Cube Radio.
Bon, on parlera pas des trois couples de Bromont qui ont fait des feux dans leur cour toute l'émission, mais c'est un bon exemple quand même des possibles relâchements causés par les carantites aiguës, le début de la vaccination aussi, l'arrivée du beau temps. Pour vrai, c'était très tentant en fin de semaine. Je vais le répéter là parce que je veux qu'on arrête de taper sa tête du monde là. Même moi, je taboute. Même moi, j'avais le goût de contrevenir. J'ai jonglé avec l'idée de voir ma meilleure amie puis de me faire un souper là, pour vrai. Puis j'ai dit non, finalement. Je me suis dit non, faut encore donner une petite poule, Geneviève. Sois pas, tu sais, trop rebelle. Suis les consignes de la santé publique. Mais tout ça pour dire qu'on est tanné et qu'il y a une adhérence qui est moins grande par rapport aux règles de la santé publique. Si on se compare, mettons, à la première vague, puis on a eu beaucoup aussi d'incohérences, de messages contradictoires, puis c'est pas de la faute du gouvernement. À un moment donné, ils prennent les décisions qu'ils prennent avec les informations qu'ils ont au moment où elles les prennent, où ils les prennent. Mais toujours est-il que ça donne lieu, bon, à des incartades. Est-ce qu'on devrait s'inquiéter d'un relâchement causé justement par cette vaccination de masse qui débute? Et l'arrivée du printemps, on va en jaser avec Kim Lavoie, qui est prof de psychologie en médecine du comportement à l'UQAM. Madame Lavoie, bonjour.
Bonjour.
Bon, juste mentionner là, à propos de la vaccination, que la prise de rendez-vous, parce qu'on se posait la question tantôt avec Benoît Dutrisac, pour les personnes de 70 ans et plus qui vivent sur l'île de Montréal et à Laval, c'est désormais possible. Donc, vous pouvez vous faire vacciner contre la COVID-19 avec le fameux site. Je pense que c'est COVID Santé. C'est quoi? Santé COVID? Je suis tellement bonne pour faire de la propagande vaccinale. En tout cas, le site Internet du gouvernement où c'est possible d'aller se faire vacciner, il y a aussi le numéro de téléphone où vous pouvez appeler. Mais bon, on se réjouit de ça. C'était une super bonne nouvelle, là, le début de cette vaccination-là. C'est une lumière au bout du tunnel. On en avait vraiment besoin, pour vrai, là, parce que je pense qu'on commençait à trouver ça bien long, le tunnel. Mais là, on a peur quand même. Le pendant à ça, quand même, là, Madame Lavoie, c'est qu'il y a des gens qui se disent, bon, ben on est à la fin du marathon, là, on peut commencer à se relâcher. Est-ce que vous croyez que, justement, ce début de vaccination là, va avoir un effet sur l'adhésion aux mesures sanitaires qui étaient déjà à la baisse?
Bien, écoute, c'est une excellente question et je pense que comme tout le monde, je suis très heureuse de savoir que notre campagne de vaccination, ça commence. Mais effectivement, je pense que qu'est-ce qu'on a vu en fin de semaine, c'est un bon début de qu'est-ce qu'on va voir dans les prochains mois. Oui, ça m'inquiète parce que justement, ça peut donner l'impression que comme la campagne a commencé, on peut peut-être commencer à relâcher un petit peu. Mais je suis pas tout à fait d'accord qu'on est à la fin du marathon. Je pense qu'on est peut-être au milieu du marathon parce qu'on est beaucoup, on est très, très malheureusement très loin d'atteindre le seuil de vaccination dans la population pour dire OK, on est prêt à relâcher. Parce que n'oublie pas, la protection qu'on va avoir avec les vaccins, c'est juste un premier dose hein, qu'on s'attend. Quand M. Trudeau parle d'être vacciné d'ici septembre, est-ce qu'il parle d'une dose par personne? Est-ce qu'il parle des deux doses pour les vaccins de Pfizer puis Moderna? Là, il y a beaucoup d'inconnus. Mais une chose que je sais, c'est très clair. Si on écoutons les experts, y compris le CDC, jusqu'à obtient notre immunité collective, ça veut dire juste lorsqu'au moins 70% du monde est vacciné.
Oui, ça va être long. Ça sera pas là.
Ça va être très, très long. Ouais, ouais. Et le fait des variants qui frappent à la porte et frappent fort, il y a beaucoup d'inconnus autour de ça. On ne sait même pas à quel point les vaccins qui sont disponibles maintenant vont être efficaces contre ces nouveaux variants-là. Et on ne veut surtout pas, et je vais dire ça très, très clairement et très, très fort, on ne veut surtout pas commencer au début avec cette tentative de relâcher de façon prématurée.
Mais oui, puis Madame Lavoie, là, on a les vaccins, mais on a le printemps. Là. Il a fait tellement beau en fin de semaine. Je voyais les gens sur la rue. C'était comme un renouveau. C'était comme si on avait une trêve, un répit, un peu comme l'été passé. Est-ce que ça pourrait faire en sorte, justement, que les gens vont tricher davantage?
Ben, je pense que le problème, c'est pas qu'on se retrouve dehors, tu sais, avec en prenant un peu de soleil, mais je pense que le problème, c'est que si on se rapproche trop.
Okay? C'est ça, les gens les rues, en ville, là, moi, j'ai mis mon masque. À un moment donné, là, la distanciation sociale n'était plus possible.
Exactement. Et je pense que c'est ça qui est à retenir, c'est que le fait que les vaccins sont arrivés ne veut absolument pas dire qu'on peut relâcher des mesures de prévention comme les masques, comme une certaine distanciation, au moins à court terme. Et encore une fois, je pense que vous avez parlé un peu de certaines incohérences dans les politiques ou des messages communiqués par le gouvernement. Et je pense que je suis d'accord avec ça. Et je pense que vous avez mentionné au début qu'on ne va pas parler des 6 personnes qui ont reçu des demandes dans la cour, mais effectivement, comment est-ce qu'on peut permettre à des centaines de personnes de se rassembler sur des pentes de ski, des parcs, une cinquantaine dans un théâtre, puis ensuite infliger une amende à 6 personnes qui se ramassent dans un cours.
Mais en même temps, on l'expliquait un peu avec la juge Gibault, puis c'est ce que François Legault a répondu quand il s'est fait questionner à cet effet par les journalistes, c'est que dans des cours privés, la tentation de rentrer à l'intérieur si on a envie d'aller aux toilettes ou si les enfants ont froid est plus grande.
Oui, mais honnêtement, je suis complètement d'accord qu'il ne faut pas le faire. Il ne faut pas relâcher ça. Et je pense que le fait que, depuis le fait que M. Legault a commencé à donner des amendes, ça communique le message que c'est assez important que je vais mettre des ressources là-dessus. Mais je parle de cette incohérence avec d'autres politiques. Alors, je pense qu'il veut bien faire. Je pense qu'il veut donner un break aux familles. C'est la semaine de relâche. On va laisser les gens aller dans les piscines, dans les parcs et tout. Mais en même temps, ça communique en même temps, veut pas, que peut-être on peut se permettre quand ça donne. OK? Alors, ça peut être une source de frustration chez plusieurs.
Oui, Mme Lavoie, vous co-dirigez une étude internationale sur l'impact des politiques de confinement et des mesures sanitaires. Est-ce que, parce que là, on a célébré le triste anniversaire, là, ça a fait un an, la COVID-19, je pense que c'était en fin de semaine. Au-delà des mesures sanitaires puis du couvre-feu, là, est-ce que vous voyez d'autres effets psychologiques sur la psyché des gens, là?
Ben ça c'est certain. On voit avec toutes les mesures de santé mentale, dépression, anxiété, frustration, isolement social, toutes les mesures de stress possibles sont à la hausse. Et c'est sûr que, écoute, ça fait effectivement un an. Notre anniversaire pour l'étude iCare, ça va être le 27 mars. Alors je peux pas croire que ça fait déjà un an. Une chose que je peux vous dire, c'est un donné qu'on a sorti juste la semaine passée. On va regarder, en fait, parce que vous parlez de vaccination et mesures de prévention. On a regardé le lien entre les gens qui ont les intentions de se faire vacciner et qu'est-ce qu'ils font habituellement au niveau des mesures de prévention. Puis un résultat super intéressant qu'on a vu, c'est ceux qui ont l'intention de se faire vacciner contre la COVID sont également plus de 2 à 5 fois plus susceptibles de s'éloigner socialement, d'éviter des rassemblements et de porter des masques. Alors, on voit une mesure extrêmement forte entre les gens qui veulent se faire vacciner et la poursuite de respect des mesures sanitaires. Tout ça pour dire que les gens qui ont des intentions négatives envers le vaccin, il y a quand même un pourcentage qui ne veut rien savoir. Ben en fait, il représente à mon avis un grand risque pour la population, surtout avec.
Oui, mais en même temps, faut apporter des nuances, je trouve, parce qu'il faut se parler des travailleurs de la santé là, qui pour certains sont réticents à se faire vacciner, des gens dans la population aussi qui sont réticents, sans être nécessairement des anti-vaccins et sans être nécessairement des gens qui nient la pandémie.
Tout à fait, et dans le fond, c'est un excellent point, Geneviève. En fait, les gens qui sont anti-vaccins. Et j'ai pas dit anti-vaccin, j'ai dit ils ont pas des bonnes des intentions.
Il faut faire la distinction, faut pas mettre c'est ça là, exactement. Tout le monde dans le même panier, c'est important.
Exactement, donc c'est un bon point et c'est les gens qui sont vraiment anti-vaccin, ça représente une minorité et dans les faits sont très durs à persuader. Je parle plutôt des gens qui sont hésitants, c'est des gens qui sont un peu plutôt ambivalent. Il veut attendre un peu, voir comment ça va, voir est-ce que les gens vont bien s'en sortir et tout. Mais les gens qui sont quand même dans ce groupe d'ambivalents ou hésitants sont quand même ceux qui ont plus tendance à contourner les règles.
À relativiser un peu.
Exactement. Okay. Alors, ça se retrouve avec les mêmes personnes qui est intéressant.
Allez-y.
Excusez.
Non, allez-y.
Non, mais pourquoi c'est intéressant? C'est parce que si on ne veut pas tout lâcher trop vite maintenant, surtout qu'on est plus vers la fin du marathon. Il faut faire attention à ces gens-là, justement parce que avec l'arrivée des variants, c'est les mêmes gens qui vont pas se faire vacciner qui vont avoir tendance à se retrouver dans les grandes gangs. Alors, c'est ça qui est inquiétant.
Ouais. Je veux qu'on revienne un peu à la santé mentale de la population. On le sait, il y a des effets, on en a parlé, là, puis c'est partout dans les journaux, plus d'anxiété. Les gens sont vraiment stressés. Je pense que globalement, là, on est très, très... on est très, très à pic, pour utiliser une expression très québécoise. Mais moi, j'ai l'impression, par exemple, puis peut-être que ça pourra se vérifier là, prochainement, j'ai l'impression qu'avec, justement, l'arrivée du vaccin, puis cette lumière au bout du tunnel, ça va peut-être aider les gens à baisser justement cette anxiété-là puis ces tensions sociales-là là, qu'on expérimente en ce moment. Ça, ça pourrait être un effet qu'on pourrait constater peut-être, là.
Oui, absolument. Et je pense que si j'écoute un peu l'écho dans la population, c'est effectivement ça. Et le fait que les gens peuvent maintenant commencer à faire des rendez-vous pour se faire vacciner,
ouais.
Je pense que ça rend ça un peu plus réel.
On a comme l'impression de reprendre le contrôle un peu.
Exactement. Et on s'est dit ça depuis le début. Écoute, tout ça, ça va finir dès qu'on va découvrir et faire circuler des vaccins. Et je pense qu'on est sur le bord de faire ça. Et honnêtement, il y a beaucoup de critiques qui sont lancées vers M. Trudeau, mais en fait, le problème principal, parce que je siège sur un comité aviseur fédéral, le problème principal, c'est un problème d'achat, un problème de ce qu'on appelle procurement. C'est parce qu'on ne produise plus, et c'est pas la faute de M. Trudeau, on ne produise plus les vaccins au Canada. Il faut qu'on les importe de d'autres pays. Et qu'est-ce qui se passe à travers le monde? C'est que ces autres pays-là qui produisent les vaccins, ils veulent garder
une partie
de vaccins. Pour,
exactement. Ouais, on a laissé partir les grandes pharmaceutiques. Et bon, plus tard, on parlera à l'émission des effets post-pandémie. Qu'est-ce que ça va nous donner? On va revoir notre rapport fort possiblement à la mondialisation. Là. Je pense qu'on a réalisé à l'échelle planétaire que notre dépendance économique à certains pays, ça avait ses limites.
Tout à fait, tout à fait. Et c'est dans notre intérêt que tout le monde, même dans les pays en voie de développement, se font vacciner. Parce qu'on a vu très bien maintenant à quel point les pandémies sont globales. C'est pas juste des choses qui affectent.
Effectivement.
Ouais.
Madame Lavoie, merci. Kim Lavoie, qui est professeure de psychologie en médecine du comportement à l'UQAM, qui co-dirige également l'étude internationale iCare sur l'impact des politiques de confinement et de mesures sanitaires. Ça se vérifiera dans quelques semaines, notre adhérence aux mesures pendant la semaine de relâche. Mais d'avis qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exceptions. On verra quelles conséquences ça aura. Une chose est sûre, ça serait très, très, très dommage de devoir se rencabaner, ne serait-ce que pour notre santé mentale. Moi, j'ai vraiment pas envie que tout referme. Je pense que vous non plus. Mais voilà, faudra se gérer. Gérer son petit rebelle intérieur.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Geneviève Peterson, la déesse de l'information.
Vous écoutez
Geneviève Peterson,
Cube Radio.
Initiative fort intéressante, les patrouilleurs du service de police de Laval qui peuvent maintenant compter sur l'aide de travailleurs sociaux. Puis c'est assez inusité quand même, les travailleurs sociaux d'urgence sociale qui auront accès aux radios d'auto-patrouille, aux terminaux de carte d'appel du 911 pour prendre part à des interventions policières qui nécessitent leur présence. C'est la première fois quand même qu'un corps de police va donner accès entièrement à ses communications à des intervenants qui ne sont pas des policiers, qui ne portent pas l'uniforme. Donc c'est assez inusité. On en parle avec Martin Métivier qui est chef de la division urgence sociale au service de police de la ville de Laval. Monsieur Métivier, bonjour.
Oui, bonjour.
Bon, je pense que tout d'abord, c'est important de souligner que c'est une excellente nouvelle. C'était dans l'air depuis quelques années. Là, on parle du travail communautaire qu'a effectué la police, de la présence possible de travailleurs sociaux sur le terrain, mais ça se fait comme jamais. Il y a comme une espèce de réticence, puis on ne sait pas trop d'où ça vient. Là, parfois, c'est des deux milieux. Pourquoi avoir pris cette décision maintenant? Pourquoi ça arrive là?
Dans les faits, je dirais que l'urgence sociale du service de police de Laval, ça existe depuis longtemps. Ouais, déjà, oui. On a une historique de la division a été rapatriée, c'est une division municipale, mais qui est dans le service de police depuis 1995. Donc, on a quand même eu le temps là, de s'apprivoiser mutuellement. Puis, on est rendu à l'étape où on est déjà beaucoup dans les opérations policières. Là. Depuis 2006, on relève directement là, de la direction des opérations policières. Moi, comme chef de division, je relève de l'assistant directeur de toutes les opérations gendarmerie. Okay. Donc, on est déjà là, présent quand il y a des décès traumatiques. On est déjà présent quand il y a des sinistres, incendies, inondations. Je veux dire, au quotidien, on le gère déjà. La particularité de l'urgence sociale, c'est un service municipal, mais qui travaille conjointement là, avec le réseau de la santé. On a beaucoup de partenaires là, à travers le réseau de la santé, les organismes communautaires, mais notre particularité, c'est de l'intervention de première ligne. Donc, vous, comme citoyenne, si vous habitez à Laval, que vous êtes inquiète pour un proche, vous pouvez appeler l'urgence sociale. Cette personne-là ne veut pas consulter, va pas bien, sort pas de chez elle, on va se présenter à domicile et on va aller évaluer la situation. Fait que les policiers étaient déjà habitués d'intervenir avec nous parce qu'on applique ce qu'on appelle la loi P38, là, donc la loi de la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui. Mm-hmm. On est désignés, nous autres, comme service d'aide en situation de crise là, pour appliquer cette loi-là qui permet un transport forcé d'une personne à l'hôpital. On va avec les familles déjà sur le territoire de Laval chercher des ordonnances pour examen psychiatrique et on exécute déjà les ordonnances là, que les hôpitaux vont chercher là, pour leur clientèle plus chronique.
Mais là, M. Métivis, si je comprends bien, là, vous arriviez après la police, forcément, là, maintenant, l'objectif, éventuellement, là, quand il n'y aura pas de dangerosité, et bien évidemment, c'est de pouvoir intervenir, de répondre vous-même, finalement, aux appels du 911, de se présenter en premier.
Oui, le projet, de la façon qu'il est déployé, comme en trois phases. La première phase, c'est d'avoir accès aux ondes radio puis aux cartes d'appel du 911. Donc, il va y avoir un duo de deux intervenants. On a déjà des véhicules identifiés, c'est juste qu'on les équipe là, avec
le matériel. Vous n'êtes pas jumelés dans des autos de police, là, c'est pas ça.
Non, c'est vraiment un duo d'intervenants sociaux. Okay. Ce qu'on se rend compte au niveau des interventions, c'est les policiers vont amener, je dirais, une réticence à la personne à se confier ou à approfondir des sujets des fois là par rapport à consommation de drogue, etc., qui sont... En tout cas, ils se gardent une réserve. Donc, notre souhait, c'est rapidement d'aller soutenir les policiers. Donc, les intervenants vont avoir les cartes d'appel, vont entendre les ondes radio, vont être capables de vérifier dans notre base de données qui va être accessible aussi, c'est est-ce que c'est des personnes connues, est-ce que c'est une situation où ça serait pertinent qu'on aide les policiers, et on va se rapporter disponible, se mettre en direction, puis attendre l'autorisation des policiers là, pour aller les rejoindre à l'intérieur le temps que la situation soit stabilisée au début, parce que là, on va arriver vraiment plus à chaud là, au niveau des crises.
Mais oui, puis bon, les policiers, quand même, qui ont travaillé longtemps dans la répression, je peux comprendre des gens qui, de ne pas être à l'aise, par exemple, de parler de drogue ou de parler de trucs qui sont illégaux. Là, ça peut venir apaiser des situations, là.
Oui, puis rapidement, nous autres, on est habitués déjà d'aller sonner chez des gens qui nous attendent pas, de créer un lien de confiance, puis de prendre le temps d'aller les rencontrer. Dans les faits, on se fait à peu près jamais leur refuser l'accès. Mm. Puis même dans les interventions d'autorité, là, d'appliquer la loi P38, c'est 10% de nos dossiers. On réussit vraiment à traiter autrement. Fait que le but, c'est d'aller rejoindre les policiers, d'amener rapidement l'interface psychosociale, de faire une intervention. On est quand même des intervenants, là, on est formés. Donc, c'est pas une approche policière. Puis à partir du moment où la situation va se stabiliser, ben il y aurait possibilité de libérer du haut de patrouille pour qu'ils puissent retourner à leurs occupations policières à ce moment-là.
Ben oui, puis juste M. Métivier, là, moi j'écoute en ce moment Policiers en service, c'est à Télé-Québec, c'est une espèce de série documentaire sur le travail des policiers, puis vraiment là à plusieurs reprises ça revient dans les commentaires des policiers le fait de dire que les policiers se sentent plus outillés qu'avant pour faire face à une clientèle qui est aux prises avec des problèmes de santé mentale, mais quand même, ils se sentent pas toujours complètement outillés. Puis je trouvais qu'il donnait un exemple vraiment bon. Il y a un policier qui disait, tu sais, avant le travail de la police, si t'avais une plainte de quelqu'un qui criait dans la rue, ta job de police, c'était de le retirer de la rue. Tu sais, parce que tu voulais qu'il arrête de nuire. Maintenant, on n'est plus là-dedans. Maintenant, on est dans pourquoi tu cries, puis il faut s'arranger pour que cette personne-là crie plus. Il faut régler son problème. Fait que c'est en ce sens-là aussi que ces initiatives-là vont servir.
Oui, puis le gros avantage, c'est à partir du moment comme intervenant qu'on effectue l'intervention, notre but, c'est de mobiliser la personne à aller chercher des services, puis de faciliter toute cette transition-là vers soit les organismes communautaires ou vers le réseau de la santé. Ce ce qu'on fait déjà. Fait que notre hypothèse, c'est que si on est capable d'intervenir de façon plus proactive, d'intervenir rapidement pendant la situation de crise, qui est, c'est un moment charnière. Hein? Quand on est en crise, on n'est pas bien. C'est un moment là qui est un levier au niveau de l'intervention pour mobiliser la personne là, pour aller chercher de l'aide. Fait que nous autres, on va utiliser ce moment-là pour essayer de mettre en place de l'aide pour cette personne-là. Puis notre hypothèse, c'est qu'on va réduire la récurrence des appels, donc le nombre d'appels policiers en bout de ligne, où la personne pourra rappeler l'urgence sociale au lieu des policiers, ben par notre cadre régulier de travail.
Ouais. Mais M. Métillier, en même temps, réduire les appels, mais peut-être aussi réduire les moments où l'intervention policière devient un peu musclée. Des fois, c'est nécessaire, mais des fois...
Oui, ben on le voit, nous autres, de toute façon, on est des travailleurs sociaux, on arrive sur des interventions, déjà, c'est déjà arrivé, là, des interventions policières qui sont un peu chaudes, la personne n'aime pas les policiers. Rapidement, les policiers à Laval, en passant, sont habitués de travailler avec nous, là, on fait partie tout du même service, fait que ça nous permet de prendre les devants, puis c'est beaucoup plus facile pour nous autres de désescalader. Premièrement, parce qu'on est formé, mais deuxièmement, parce qu'on est des travailleurs sociaux, on n'est juste pas des policiers. Fait que le but, c'est d'essayer de favoriser la désescalade, puis après ça, une fois que la personne est un peu plus calme, de pouvoir travailler les vrais enjeux qu'il y a en arrière. Dans la phase suivante de déploiement, là, si ça fonctionne, ce qu'on souhaiterait, en bout de ligne, c'est d'être capable de se faire assigner des cartes d'appel au même titre que les véhicules de patrouille, mais pour des appels où on sait qu'il n'y a pas de risque pour les intervenants, puis de dégager à la base les policiers là, de ce type d'intervention-là. On prend, par exemple, dame âgée demeure seule à domicile, le conjoint est décédé il y a un an, puis les voisins, ça fait deux fois qu'ils la ramènent à la maison parce qu'elle est allée chercher son courrier, elle ne se rappelle pas où est-ce qu'elle habite. Mais c'est le genre de dossier qu'on va prendre, là, qu'on n'aura pas besoin de déplacer là, un véhicule de patrouille.
Moi, j'ai une question. On a vu récemment là, dans différents incidents qui ont fait la manchette, des situations où les personnes, si on veut... refusent l'aide ou veulent pas se faire aider. Puis là, je sais qu'il y a le P38, là, mais c'est pas évident quand une personne ne représente pas un danger pour les autres ou pour lui-même maintenant d'évaluer bien si elle va représenter un danger pour les autres pour elle dans 15 jours ou dans 5 jours. T'sais, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui veulent pas se faire aider, qui veulent pas appeler des services d'aide, qui veulent pas se rendre à l'hôpital, qui présentent pas un danger là, mais qui vraiment vont en présenter un possiblement dans 5, 10, 15, un mois, tu sais?
Bien, c'est là que nous autres, c'est notre cadre régulier de travail. OK? On a beaucoup de dossiers qui sont de personnes qui sont en rupture de service avec le réseau, qui ont déjà eu un suivi, déjà eu de la médication, qui ont refusé. Notre but, c'est de bâtir un lien avec ces gens-là, puis au pire, d'être l'interface, les personnes qui vont intervenir en premier s'il y a des appels des voisins, des membres de la famille. Fait que, écoutez, il y a des dossiers qu'on a eus pendant des années où on avait à gérer ça, justement, le risque, le degré de désorganisation. Puis nous autres, c'est qu'on travaille en arrière. Là, quand je vous dis que j'ai mes partenaires du réseau, c'est vraiment, on les a avec nous. On peut parler à certains psychiatres qu'on connaît, les appeler sur leur cellulaire, avoir de la consultation clinique. Puis dans le fond, ce qu'on attend, c'est le bon moment pour intervenir. C'est soit ça. Qu'on a vraiment nos éléments de dangerosité qui permet d'amener la personne à l'hôpital, puis qu'on sait, vu la dangerosité qu'ils vont être gardés, ou on travaille à les mobiliser. Puis je vous dirais, il y a des dossiers qu'on a quand même réussi à régler, là, malgré la chronicité puis la durée dans le temps.
Okay.
Mais notre but, c'est d'être en contact avec les citoyens, d'essayer de soutenir les familles. On fera pas de miracle dans toutes les situations, mais je dirais qu'on a quand même, on est habitué de travailler dans un contexte qui est non volontaire. Mmh. Je veux dire, c'est notre quotidien. Puis souvent, le non volontariat, ben, c'est des craintes, c'est la peur d'être contrôlé, des personnes qui ont des choses à changer. C'est ça, fait que c'est tout de dédramatiser ça aussi, puis de soutenir les familles à mettre des limites aussi des fois. Les familles absorbent, quand un proche va moins bien, vont faire beaucoup d'efforts pour essayer de le soutenir, mais des fois, c'est vraiment contre-productif, fait qu'il y a des familles à équiper aussi pour mettre des limites, puis que la personne, ben, elle ait les conséquences aussi des choix qu'elle fait, pour nous permettre d'intervenir puis d'être capable de reprendre ça avec la personne.
Merci, M. Métivier. Martin Métivier, qui est chef de la division urgence sociale au service de police de la Ville de Laval. Je vous rappelle que les patrouilleurs de ce service de police peuvent maintenant compter sur l'aide de travailleurs sociaux. Ils pouvaient déjà le faire depuis quand même un petit bout, mais là, c'est rendu... ce qu'on souhaite éventuellement, c'est que ces travailleurs-là puissent répondre à des appels sans nécessairement que les policiers se présentent sur les lieux. Ça se fera pas aujourd'hui, là, mais c'est ça l'objectif.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson.
Cube Radio. Cube Radio.
Cube Radio.
Cube Radio.
En direct à LCN.
14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue dans nos studios de Cube Radio, Geneviève Peterson. Salut Geneviève.
Salut Julie.
Alors, j'ai hâte de t'entendre sur cette histoire parce que ça a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux en fin de semaine. Les policiers de Bromont qui n'ont pas laissé la chance à un groupe d'amis, trois couples qui étaient à l'extérieur autour d'un feu, 1 500 $ d'amende pour chacun d'entre eux, donc aux alentours de 10 000 $ là, si on additionne tout ça. Est-ce que c'est un peu de zèle la part des policiers? Est-ce qu'ils auraient dû, selon toi, leur donner une chance?
Tout en partant, leur budget de vacances d'été vient malheureusement sans doute d'y passer. Ça calme, 10 000 $ évidemment. Je comprends que ça fasse réagir les gens, puis moi aussi, ça me fait réagir, mais peut-être pas dans le même sens. C'est-à-dire qu'en fin de semaine, là, je sais pas pour toi, là, mais il faisait tellement beau. C'est comme si on était dans une espèce d'accalmie, de trêve, de période un peu de déni collectif. Là, moi, je l'ai vraiment constaté. Puis moi-même, je l'ai vécu. Pour vrai, là, je suis allée me promener dans la rue. J'avais l'impression que la pandémie n'existait plus. Vraiment, là, j'avais cette...
C'était la fin. Hein? On a l'impression que c'était fini derrière nous.
Ça fait du bien. Il fait soleil, il fait chaud. On a le vaccin. On a commencé à vacciner des gens. Puis là, c'est sûr qu'on a, tout le monde a envie de faire des exceptions, puis on a envie de voir les gens qu'on aime. J'ai envie de voir ma mère tellement. Julie, ça fait 8 mois que je ne l'ai pas vue. Mais là, la tentation, puis c'est sûr que c'est pas nécessairement dramatique là, de se réunir dans une cour à l'extérieur, peut-être sur des chaises soleil, un peu loin de nos amis, mais on n'a pas le droit. On n'a pas le droit, puis c'est ça qui est l'affaire, parce qu'on nous l'a super bien expliqué. Là. Je comprends, puis tu sais, c'est plate là, individuellement, que ces personnes-là aient eu des amendes. Il y a des gens qui ont des comportements bien plus graves qui se font pas pogner. Puis ce qui invoquait aussi, c'est sûr, c'est quand on parle de cohérence puis d'adéquation au règlement, quand tu penses que tu es à côté du centre de ski Bromont où il y a plein de gens qui s'agglutinent puis que toi, tu n'as pas le droit d'être dans ta cour, c'est sûr que ça n'a pas l'air juste.
Oui, parce que c'est un peu ça qu'on leur a dit. Si vous étiez sur vos raquettes, vos skis de fond, vos skis alpins, vous pourriez être tous ensemble. Mais parce qu'ils étaient autour d'un feu, même avec le 2 mètres de distance, eh bien, les policiers leur ont dit, écoutez, on n'a pas le choix, là. Il y a eu une plainte des voisins. Hey, mais bonjour, le voisinage après ça.
Oui, bon.
Et on doit vous donner une contravention de 1 500 $.
Moi, j'ai bien de la misère avec la culture de la délation, mais je peux comprendre que ça peut fâcher des gens puis que ça peut les appeler à dénoncer quand, mettons, toi, tu te prives, puis toi, tu ne vois pas tes parents, puis toi, tu ne vois pas tes amis. Maintenant, c'est vrai que ce n'est pas tellement cohérent quand il y a des gens à côté qui font de la raquette, mais il faut tracer une ligne. Puis je veux juste qu'on se rappelle de la raison pourquoi on n'a pas le droit de se réunir dans des cours arrière, c'est que la tentation est grande de rentrer à l'intérieur pour aller à la salle de bain ou si les enfants gèlent, de dire « bon, on va aller juste 15 minutes en dedans ». C'est ça qu'on veut pas, puis c'est pour ça qu'on l'a tracé là, la ligne. Après ça, est-ce que les policiers auraient dû faire une exception? Ben non, Julie, parce que s'ils avaient fait une exception, on serait en train d'en parler, puis on serait en train de se dire « ben là, franchement, pourquoi on n'a pas donné des contraventions à ces gens-là qui ont contrevenu aux règles sanitaires? »
L'heure n'est peut-être plus aux avertissements. En même temps, il y a eu un autre party à Bromont, hein? 15 des Montréalais qui étaient à l'intérieur d'un même chalet. Alors, est-ce que la contravention de tout près de 1 500 $ vaut autant lorsqu'on est à l'intérieur, on fait un party à l'intérieur d'un chalet qu'à l'extérieur autour d'un feu en plein après-midi?
Bien, c'est parce qu'à un moment donné, tu peux pas faire ce type de gradation-là. Là. T'es hors la loi ou t'es pas hors la loi. T'as pas le droit d'être dehors, c'est bien plate. T'as pas le droit d'être en dedans, c'est bien plate. C'est la même contravention. Moi, j'ai l'impression, le truc qui m'inquiète en ce moment, c'est que j'ai l'impression que c'est le festival de l'exception là, qui vient de commencer. Moi, j'en ai vu plein en fin de semaine passer des photos sur mon Instagram de personnes qui s'étaient louées des chalets avec d'autres mondes qui sont pas dans leur bulle. Puis tout le monde se dit « Ah, mais c'est pas grave, c'est juste une fois, puis je vais voir ma mère, puis je vais aller porter les enfants. » Moi, j'ai peur de voir les chiffres au retour de la relâche. Là, j'ai l'impression que les gens, puis je les comprends, font des exceptions en se disant « Une fois, c'est pas grave. » Mais on l'a vu, là, ça prend juste quelques secondes, puis c'est plate à dire, mais...
Et tu as vu la publicité, Geneviève, de l'infirmière qui fait juste ça, gérer des exceptions?
C'est la meilleure. C'est la meilleure publicité, parce que c'est tellement ça, c'est tellement vrai. Moi, la première, là, en fin de semaine, je me suis dit ah, j'aurais tellement le goût de super avec ma meilleure amie. Elle a passé un test COVID la semaine passée. Elle l'a pas. Personne va le savoir. Ben non, parce que tout d'un coup, moi, je suis allée à l'épicerie. Tout d'un coup, mes enfants vont à l'école. Tout d'un coup. Puis c'est le personnel de la santé qui, finalement, les gère, nos exceptions. Moi, j'essaie de me rappeler ça quand c'est vraiment difficile. Puis j'essaie de me dire, le vaccin s'en vient à un moment donné. Ça va être mon tour. Puis le beau temps est là. Donc, j'espère qu'on va connaître une trêve pour l'été passé. Mais si on s'énerve trop puis si on en fait trop d'exceptions, on va être obligé de se rendre en cabane au mois de juin. Moi, ça me tente pas.
Non, ça, on veut pas ça, effectivement. Merci beaucoup, Geneviève. Bon après-midi à toi.
À toi aussi.
Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5 000 pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
Geneviève Peterson.
Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
On en parle de l'écœurantite aiguë. Puis vraiment, là, moi, j'étais sur cette impression qu'après la pandémie, après le long tunnel pandémique, ça allait être quelque chose comme les années folles. On allait complètement se lâcher lousse, que ça allait être la fête, que ça allait être la dépense, les restaurants, les parties. En veux-tu, en voilà. Mais bon, paraîtrait-il que ce n'est pas nécessairement le cas, ce qui est assez décevant à mon sens, parce que le Québec va tomber dans une période semblable aux années folles après la pandémie. On va en parler avec Simon Langlois, qui est sociologue, professeur émérite de l'Université Laval. Monsieur Langlois, bonjour.
Oui, bonjour.
Bon, écoutez, là, on parle d'années folles. Je vais être super... On veut que ça soit ça. On veut que ça soit ça. On veut qu'il y ait une période de faste, de joie, de party, de laisser aller parce qu'on n'est plus capable de la pandémie. Mais est-ce que vraiment ça va être ça?
Moi, je pense que ça va être plutôt un soulagement, la joie de retrouver le bonheur d'avant ou la vie normale, si on veut, c'est-à-dire pouvoir travailler, pouvoir étudier, aller au cégep, à l'université, avoir des loisirs, le restaurant. Mais est-ce que on va avoir aussi le goût d'en profiter de nouveau, si on veut? Est-ce que ça va être l'euphorie ou la belle époque? Ça, c'est une autre question, parce que faut pas oublier que la belle époque, ça vient après la Première Guerre mondiale, après une période de très grave pénurie, de rationnement, de misère. C'est un peu comme si, là, on voulait fuir toute cette misère, puis aller de l'avant dans un monde nouveau. C'est pour ça qu'on appelait ça la belle époque, si on veut. Alors que je pense qu'aujourd'hui, on va plutôt être soulagé et puis vouloir revenir à la vie normale. Pourquoi? Parce que avant la pandémie, eh bien, la situation n'était pas aussi dramatique qu'elle l'était avant la belle époque ou avant l'euphorie qui a suivi les deux dernières guerres mondiales.
Bien, en même temps, j'ai l'impression qu'on a beaucoup d'économies, qu'on a beaucoup de désir aussi de refaire des choses, mais ce qui va peut-être être plus compliqué à réapprendre, c'est avoir confiance de fréquenter des gens. Moi, je sais pas comment je vais faire, par exemple, pour retourner dans un festival ou aller en voyage de façon totalement débonnaire comme je le faisais avant, là.
Bien, peut-être pas débonnaire, mais on va y aller avec plus de confiance. Là. Pourquoi? Parce que d'abord, on va être rassuré par la lutte à la pandémie avec les vaccins, puis avec aussi l'immunité qui va venir à partir du moment où une bonne fraction de la population va être vaccinée. On va voir baisser les cas de COVID, on va voir baisser, en quelque sorte, les problèmes sanitaires. Et moi, je pense qu'on va faire un ouf, comme vous l'avez dit au début, là. Et je pense que la vie normale va reprendre. C'est sûr que ça va prendre un certain temps. Il va y avoir aussi des pots cassés nombreux. On sait qu'il y a des faillites qui s'en viennent. Il y en a déjà eu aussi en ce moment.
Oui.
Une partie de la classe moyenne trouve la situation très difficile en ce moment. On sait qu'il va y avoir des inégalités plus grandes au moins pendant quelques années, là, le temps que les gens se relèvent, si on veut. Alors, Pierre Fortin avait raison de dire qu'on a accumulé collectivement un grand capital qui va être dépensé parce que les gens
vont peut-être pas le dépenser entièrement. Les gens vont peut-être être frileux justement en se disant « Hey, on sait pas quand est-ce que ça va recommencer cette histoire-là, s'il va y avoir une autre pandémie. » Peut-être les gens vont être beaucoup plus prudents. C'est dur à prévoir quand même, là.
Les gens vont être prudents, mais d'un autre côté, on s'est habitué depuis plusieurs années là, à sortir au restaurant, à voyager, à avoir des activités à l'extérieur. Et ça, ça va rester si on veut. Moi, je pense que le soulagement va nous amener à vouloir retrouver le bonheur d'avant ou la vie normale, peut-être pas se lancer dans l'euphorie dont on a parlé tout à l'heure, là, mais je pense qu'on va avoir le goût de retrouver des choses simples, de retrouver là, le plaisir qu'on avait avant.
Simon Langlois, merci, qui est sociologue et professeur émérite de l'Université Laval. Est-ce que le Québec tombera dans une période semblable aux années folles après la pandémie? Pas si certaine de ça.
Le commentaire de
Dany Saint-Pierre, un chef pas comme les autres.
On s'excuse, le son était pas très bon. Il y avait un essaim d'abeilles dans mes oreilles, sûrement dans les vôtres aussi. Ça tombe particulièrement sur le gros nerf. Ah, merci. Tu continues l'ambiance de l'entrevue tantôt. Je suis contente.
Moi, j'adore le son des néons.
C'est vrai. Hey, non, mais ça, c'est comme. Quand tu fumais des plombs au couteau quand tu étais jeune, puis qu'à un moment donné, tu fermais à fan, tu étais comme, oh, OK, j'étais pas en train de faire un bad trip, c'était juste la fan.
Ouais, c'est comme, ouf. Ça fait du bien.
Le son incessant de la fan du poil.
Aïe, aïe, ça sent les années folles. Hein?
Non, mais je voulais qu'on poursuive cette discussion sur l'après-pandémie parce que j'ai l'impression qu'on en a de plus en plus des avant-goûts. En fin de semaine, j'avais l'impression de vivre une espèce de trêve. Je ne sais pas pour toi, là, mais,
ben,
okay. Mais ça m'a fait faire une crise de panique.
Hey, moi, je voyais du monde. Là. Écoute, t'sais, on est quand même dans nos milieux de vie urbaine. Là, moi, j'habite dans le Myland, puis moi, des roches.
Il y a du monde à la shop.
Hey! Il y avait comme 200 personnes devant le Café Olympico. Je marchais sur la rue Saint-Viateur. Fallait que j'évite des tapons de monde. Tout le monde avait lavé leur char.
Moi, j'ai mis mon masque dehors.
Ben, moi aussi, je mets tout le temps mon masque dehors.
Ouais.
Parce que, veux pas, tu traverses des trottoirs, le monde sont là, ils fument des tops, ça tousse, ça bouge vite. Puis là, je fais comme, calvaire, personne n'a eu le mémo, les gens sont vraiment écœurés. Sur Notre-Dame, c'était la même affaire, tu sais, dans notre chic Saint-Henri, là, même Christie de patente. Fred a été dans le parc Laurier, là, il y a du monde qui était assis en tapons dans la neige sur découverte, comme
ben
si
oui.
C'était le printemps.
Ben oui, c'est sûr.
Coudonc, calvaire.
Je sortais avec mon coton ouaté.
Ben, c'est ça. Mais de toute façon, en ville, c'est tout le temps la même chose. Hein. Dès qu'il commence à avoir des tapons de neige qui tombent de ton toit en pente. Là,
du monde en short.
Ouais.
Calmez-vous la gang.
Puis après ça, ben, y a du monde en short toute l'année. Là. Y a du monde louche, ça. Là. Hein, c'est pas trop homogène. Là. Hein, y a du monde bizarre. Fait que moi, je pense qu'il va y avoir un petit party. Parce que, tu sais, je veux pas. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des économies en restant à la maison, puis tu sais, en allant moins au resto, en sortant moins, en faisant des trucs. Puis cet argent-là, ben, je veux pas avoir venir, tu sais. On a eu un avant-goût de ce que ça peut donner, sans aucun signal probant. Imagine quand on va les lâcher lousse, ce monde-là. Ouh là là.
Ben, je le sais pas. Moi, je voudrais qu'il y ait une période folle, OK? J'ai vraiment envie de ça, là.
OK.
J'ai besoin... Non, mais pour vrai, je te disais que j'avais fait une petite crise de panique dimanche. J'étais une petite crise de panique de personnes excessivement privilégiées, là. Encore une fois, c'est nous, ça, tu sais.
Hein?
Non, mais c'est correct.
Les bobos de la radio.
Mais je veux quand même dire que même si on est privilégié, on a le droit de capoter puis on a le droit de trouver que c'est pas le fun, là.
On reste des humains, avec des émotions et des peurs et des craintes.
Je suis pas Bill Gates non plus, là.
Non.
On va se calmer. Non, mais c'est parce que j'étais écœurée de faire la même affaire. Je suis plus capable. J'ai fait le tour de prendre des marches, d'aller au café, d'écouter Netflix, de penser à moi, de prendre soin de moi.
Ah, de penser à toi.
De prendre soin de mon couple. Je suis plus capable de prendre soin de mon couple. Je suis plus capable. Il va tellement bien, mon couple.
Moi, je pense que ton couple, t'es pas tout seul à en prendre soin parce que je vois des actes.
Il va bien, là. Tout le monde est enceinte, mais pas moi.
Non?
Non, je veux pas.
Mais t'as déjà donné.
J'ai fait ma part pour le Québec de demain. Pierre-Yves aussi, 5 enfants, des petits futurs payeurs de taxes. Il va falloir qu'ils en payent en maudit des taxes, d'ailleurs,
pour
qu'on se remette de tout ça. Mais moi, je le souhaite qu'on ait une espèce de période, puis on l'a un peu vécu. Tu sais, je disais, on a eu un avant-goût en fin de semaine, mais l'été passé, tu sais, on s'en rappelle, là, ça faisait du bien. Ça faisait du bien de voir des amis, ça faisait du bien de voir des gens, ça faisait du bien d'avoir l'impression que tout ça, ça n'avait jamais existé. Puis tu sais, je ne sais pas pour toi, là, mais quand on écoute des films,
oui.
C'est bizarre.
Hey, moi, là, je capote. Je vois du monde, admettons. C'est drôle, je regardais des vidéos de nos amis de chez Barra Barbecue. Okay?
Toi, j'y pars!
Hey, non, ils se tiennent là, ils se donnent des becs. Hey, moi, ça va prendre un crise de bout avant que je donne un bec à quelqu'un.
Moi, j'ai essayé ça, les bises de bonjour, là, puis de bye-bye.
Ah, je suis plus capable.
Moi, si ça peut
être 3,
évacué de l'espace social, là, je vais être bien heureuse parce que les messieurs qui se gâtent. Là,
pourquoi qu'on serre la main des hommes puis on serre pas la main des femmes?
Je sais pas, mais les messieurs qui te donnent la bise en te pognant un peu trop les hanches, puis. Ouais, puis genre, ça me tente.
Avec des lèvres mouillées un peu.
Ça me tente
là.
Pas de faire la bise à du monde que je connais semi, là. Non, merci.
Ouais, puis c'est quoi, une belle convivialité?
Ça, j'espère que ça reviendra pas.
Ben, je pense pas que ça va. Je pense que ça va prendre un temps avant de revenir. J'ai regardé nos amis de chez Baron, là, tu sais, dans ton Saguenay natal, là, les gens peuvent aller au resto, tu sais, les zones sont défaites.
Arrête, j'ai parlé à mairesse tantôt, puis j'étais jalouse, comme on dit par là-bas.
Ça avait l'air le fun. Ça avait l'air le fun, mais j'avais comme un petit pincement, je regardais ça, puis je faisais comme, ah, oh, ils sont chanceux. Puis après ça, je me disais comme, est-ce qu'on va être capable de se lâcher l'ours?
Ils se sont tellement privés pour nous autres pendant des mois, les régions, là. Moi, je suis contente pour eux autres.
Ben, moi aussi, je suis contente pour eux. Mais en même temps, c'est sûr que nos règles ont changé. C'est drôle parce qu'il y a beaucoup d'articles qui sortent avec des intellectuels de tout acabit qui font des parallèles avec la grippe espagnole
non, mais
de 1920.
Là, on parle de ça parce qu'il y a un grand texte dans la presse, un an de pandémie, après la pandémie, le beau temps. Puis on a plein d'experts là-dedans. Je viens de parler à un sociologue qui était dans cet article-là. Il y a Laurent Turcot.
Ben oui, ton ami Laurent Turcot.
Mais que j'adore, qui a
Smart.
Qui a une balado absolument incroyable, qui nous explique des affaires puis rend l'histoire accessible. Moi, j'aime ça.
Oui.
Mais c'est vrai que on fait des parallèles avec la grippe espagnole, puis avec la Deuxième Guerre mondiale, puis avec toutes sortes d'affaires, mais j'ai l'impression qu'à l'échelle, ce qu'on vit, c'est... Tu sais, ça a l'air d'être terrible, là, parce qu'on le vit, mais c'est rien à comparer tout ça, tu sais.
Ça n'a rien à voir. Tu sais, on parle de guerre, là, ce sont des millions et des millions de morts, puis c'est pas des morts passives, là. C'est des morts de grande violence avec des gens qui vont au front, avec des baïonnettes dans des tranchées, se faire pisser dessus par la vie, là. Là, c'est sûr qu'il y a la pandémie, puis c'est assez terrible, mais c'est à la même échelle, ça n'a rien à voir. Puis les mœurs de l'époque aussi n'étaient pas les mêmes. Tu sais, t'avais la prohibition aussi qui était aux États-Unis. T'avais un paquet de monde qui traversait les lignes pour venir faire le party à Montréal. T'avais le red light qui était à plein feu.
Mais là, les gens traversent les lignes, vont s'agner pour manger de la poutine en dehors des relais de skidou. Là, c'est wild de même qu'on est, là.
Ah, c'est fucked up, c'est certain. Mais tu sais, à l'époque, on buvait, on faisait toutes sortes de niaiseries.
Ouais.
Les relations extramaritales étaient assez random avec des dames de fille de nature légère.
C'est pas encore de même?
Ben, j'ai pas l'impression.
Moi, tu regardes marital, ça a l'air pas mal légion. C'est sûr que ce temps-ci, c'est un peu difficile. Partir une heure et demie à l'épicerie, là, c'est tough.
Ouais, mais tu sais, comme aller aux putes à l'époque, je pense que c'était plus normal qu'aujourd'hui. Tu sais, en général. Là,
c'était mieux accepté socialement.
Ben, j'ai l'impression. Tu sais, les hommes avaient un levier économique sur les dames qui étaient pas mis à la maison.
T'avais rien à dire,
puis c'était ça. Puis, ah, ben, écoute, il est fin, puis au moins, on mange tout le temps, tous les repas. Puis, tu sais, je pense pas qu'on est dans la même affaire pendant tout. Ceci dit, moi, j'ai vraiment confiance au fait qu'il y a un gros revenu discrétionnaire qui est pas touché en ce moment. Qui va être rééjecté dans l'économie.
C'est là où je parle avec toi. Moi, j'ai vraiment l'impression que les gens voudront pas toucher à leur magot tout de suite.
OK.
Il va, à mon sens, avoir une espèce de retenue parce qu'on est habitué de faire du back and forth depuis des mois. Mm-hmm. C'est comme si on y croira pas tout de suite.
Oui, mais on parle de 2024, hein?
Retour complet à la normale.
Il y a trois phases là-dedans.
Après ça, est-ce qu'il y a des gens en ce moment, puis j'en suis, qui ont fait des réalisations par rapport à leurs finances, de se dire que, tu sais, la cigale et la fourmi, là...
Oui.
Moi, je suis plus de type cigale. Je pense pas que ça soit une surprise pour personne.
C'est vrai?
Ben écoute, oui, je pense que toi aussi, Dani.
Écoute, moi, je suis une bonne fourmi, sauf que des fois, je fais de la freebase.
Moi, il me faut des ailes. Partout. C'est une fourmi ailée.
Ah oui, hein, les fourmis...
Je me suis transformée en fourmi. C'est ça. Puis je vis juste 3 jours, puis je meurs avec mes économies.
Ah,
mais,
oui.
mais j'ai réalisé...
Tu n'apporteras pas au paradis.
Non, mais je pense qu'il y a bien du monde qui ont réalisé à quel point un coussin, là...
Oui.
Ça peut être un facteur de déstressage majeur. Pour vrai, là, parce que quand tu perds ta job et que tu es à 2 semaines de salaire puis que les prestations du gouvernement n'arrivent pas puis que tu te demandes comment tu vas faire pour t'acheter une pinte de lait, que tu n'as plus accès au crédit parce que tes cartes sont loadées, que ta marge de crédit est au bout. Tu sais, je pense qu'il y a bien des gens qui ont dit « Eh là là, peut-être que ça serait le temps que je commence à me gérer mieux. » Je pense que ça, là, ça, c'est arrivé.
Oui, ça, c'est un gain, c'est certain. Puis, tu sais, ça ramène aussi à cette époque-là de le 100 ans où si tu n'avais pas une scène, tu dépensais pas, tu sais. Puis, si tu n'avais pas accès à du capital, tu n'avais pas des
cartes. Tu n'avais pas payé en 28 versements.
Non. Puis, tu sais, c'était des toughs à l'époque, là. Tu sais, tu avais besoin d'argent liquide.
Non, tu avais un chapeau. OK. Non, c'est merveilleux, là. Tu avais un chapeau, puis tout était fait à la main, puis tu achetais 2 paires de pantalons, puis une chemise. Puis c'était ça qui se passait, là.
Mm-hmm.
Ça durait des années, tu réparais, tu reprisais.
Tu raccommodais tes chaussettes.
Maintenant, quand je vois passer sur Internet des services de payage à tempérament pour des commandes de linge, là,
ouais.
Ça, c'est pas une joke, là. Quand tu commandes, mettons, du maquillage au Sephora,
oui.
Pour une facture de 103$, mettons, là,
ouais.
Tu peux payer par paiement différé. Je veux dire, à un moment donné, si t'as pas 100$ pour t'acheter du maquillage, peut-être que ça serait une bonne idée de pas t'en acheter.
Ah, les gens.
Ouais, non, mais pas les gens, ça vise les jeunes. Ça vise les jeunes comme ma fille de 14 ans.
Clairement.
qui se dit « Ah, mais maman, c'est cool, je peux faire une commande de 500$ dans telle boutique de vêtements puis le payer en 6 fois. »
Tout à fait.
Imagines-tu?
Bien, si les paiements sont réalisés, ça va. Mais c'est juste que c'est un méchant piège à
con. Non, ça te met en tête cette idée que tu peux acheter des affaires alors que tu n'as pas les fonds nécessaires pour les avoir. C'est une espèce de dépendance au crédit. Moi, je l'ai eu, cette dépendance-là. C'est tellement difficile de se défaire de tout ça. Puis quand tu es jeune, quand tu as 17, 18, 19 ans, tu sais, qu'ils te donnent ta carte de crédit étudiante avec ta limite de 500$, là, mm-hmm. tu peux pas trop te mettre dans la merde à la limite. Mais tu apprends très, très vite. Par contre, à dépenser, puis tu gères cet argent-là comme si c'était le tien, alors que c'est pas le tien pantoute, il faut que tu le rembourses, puis c'est difficile de mesurer, tu sais, rembourser une carte de crédit de 10 000 $ là, quand tu fais 50 000 par année, là.
Oui, c'est long.
Ça se fait pas, genre, en 2 semaines, puis avec ton bonus de fin d'année que t'as pas, là.
Ça donne le goût de trouver un side hustle puis de commencer à faire du...
T'as le mettre dans une remise?
Ouais, ou du Uber chez vous, à faire des hamburgers puis des hot dogs. Commencer à vendre en ligne.
Tout ça pour dire vrai. Que moi, je pense que la pandémie a eu des impacts positifs sur notre gestion financière à tous, là, puis les gens mm-hmm. accumulent un coussin. Après ça, c'est vrai qu'il y a des paradoxes. Là. Les gens n'ont jamais acheté autant de voitures de luxe.
Tout à fait.
Parce que là, les gens se sont dit, une vie à vivre, pandémie, moi, acheter Volvo.
YOLO.
Non, mais c'est ça.
Volvo, hein? Volvo, c'est encore assez sexy. Il faut le croire. Tu sais, il y a les gens aussi, là, je trouve ça intéressant que tu parles de carte de crédit parce que c'est une vilaine habitude, ça aussi, de tout payer avec ta carte de crédit.
Bien, c'est pas une vilaine habitude si tu la payes à la fin du mois. Moi, je paye tout avec ma carte de crédit.
Mais en même temps, faut pas oublier que, oui, tu accumules des petits points, puis ça, c'est une illusion intéressante, là, mais à chaque fois, le commerçant va payer 2,5 à 3 % ça va être sur son bras. Là. Tu sais, si tu prenais ta carte
puis mes points.
Si tu prenais ta carte de guichet, là, ben, il y aurait 3 % dans chacune des business qui resterait. Tu sais. On a des petites habitudes comme ça qui nous embarquent dessus, puis on se fait oui, puis on y pense pas. Puis ça fait partie de nos finances, ça aussi. Ça va d'un deux bords. Une autre affaire qui est intéressante, c'est le fait que les gens, ben, puisqu'ils se ressentent sur eux puis qu'ils ont été pognés avec eux-mêmes, ben, ont amélioré leur maison, ont amélioré leur cuisine, ont amélioré leur
cours. Jamais autant de réno.
Ben oui. Fait que ça, est-ce que les gens vont avoir envie ou avoir les moyens de sortir après ça? Parce que je veux pas. Une économie de service, ça fait travailler un paquet de gens. Dont moi. J'espère que les gens vont avoir le goût de sortir.
Je pense qu'un des premiers endroits où les gens ont vraiment envie de retourner, c'est le resto. Pour vrai, là, peu importe les améliorations que tu as faites à ta cour arrière, à ta cuisine, n'est pas José Di Stasio qui veut, n'est pas Dany Saint-Pierre qui veut.
Non, ben, on à un moment donné, pas.
Non, mais tu es juste à bout de voir tes 4 murs puis tu as besoin de sortir. Ceci dit, faire des rénos sur sa maison, ça peut être une bonne façon d'aller chercher une valeur de revente intéressante parce qu'en ce moment, c'est complètement fou, le marché est aux vendeurs. En fin de semaine, je voyais une dame qui écrivait, écoute, c'est épouvantable, c'est avec toi qu'on parlait de chalet la semaine passée, la folie. Madame a dit, moi, mon mari, on avait un chalet, là, je donne des chiffres fictifs, là.
Oui.
Mais elle disait, j'avais un chalet à vendre, 330 000, il est parti à 525. Il y a des rénos à faire, là.
Tant que tu n'as pas envie de te relocaliser,
c'est
correct.
Mais les gens prennent
leur
argent où? Moi, c'est ça que je comprends pas. Je regarde les personnes autour de moi qui acquièrent des propriétés à Montréal, des duplex, qui achètent des maisons de campagne. Puis c'est des gens comme toi puis moi là, qui ont des enfants, souvent qui ont des salaires quand même bien, mais pas sont pas chirurgiens spécialistes. Là, je veux dire, c'est pas des techniciens du cerveau émérite qui ont été au MIT. Là, je veux dire, c'est du monde aussi qui font une vie normale. Ah ouais, on va s'acheter un petit duplex, toi, à 125 000, on va mettre 200 000 de réno dedans, mais t'es comme, mettons, ton dossier de crédit, montre-moi-les, je veux dire, moi, je suis curieuse de
savoir
comment tu fais tes paiements. Puis là, tu regardes en cours, ah ouais, ils ont une Prius, ils ont une Tesla.
Juste pas que ça pète,
leur affaire. Ils vont en voyage, ben là, pas là, là mais je ne comprends pas comment les gens arrivent, je comprends pas. C'est un mystère pour moi, écrivez-moi.
Ben,
dites-moi votre truc.
Il y a probablement une relation avec ta cote de crédit. Là. Tu sais, mettons, il y a des gens qui s'activent tard dans la dépense.
Il faut que tu aies de l'argent pour la payer, ton hypothèque, ta grosse hypothèque. Je comprends que tu as un revenu de loyer si tu achètes un plex, mais ton revenu de loyer, c'est pas 6 000 $ par mois avec la madame d'en haut, 87 ans, ça fait 15 ans qu'elle est là.
Ben, c'est sûr. Mais tu sais, il y a du monde qui ont pris du temps avant de péter les plombs puis d'avoir du fun à dépenser de l'argent aussi, là, qui se sont montés puis qui ont fait l'acquisition d'une première propriété, l'ont revendu, ils ont fait des sous.
Peut-être.
Puis à un moment donné, ils se réveillent à nos âges puis ils font, OK, là, c'est le temps, là. J'ai 42 ans.
On
va
l'avoir, ma maison d'architecte.
Ouais, puis OK, on a de l'argent, là, ça va être le fun. Moi, je pense que quand tu ouvres ce robinet-là, c'est là que ça devient dangereux parce que t'as changé ton beat, là.
Là, tu t'habitues au luxe.
Tu gères de la croissance.
Et là là.
T'es mieux de suivre. Fait que là, ben, sors ta cagoule, puis va trouver du cash après ça quand t'en as besoin.
T'as tes enfants aussi à ça?
Ça, là, ça me terrorise.
Ben oui.
Toute cette notion-là de...
Mes petits-enfants gâtés qui ont toutes les trois une Switch.
Oui. Chacune tablette.
Ouais.
Des running shoes neufs au mois.
Ah, puis qui s'attendent... Ah, ma fille est chez le coiffeur dans une heure. Coupe et brushing, 80$.
Obviously.
Elle a 14 ans.
Ben oui.
Ben, moi, l'idée même de me faire sécher les cheveux chez la coiffeuse quand j'avais 12 ans, ça m'effleurait même pas l'esprit. Tu sais, je me disais, hey, c'est juste les riches.
Mais comment ils vont faire pour suivre le beat? Est-ce que ça va leur donner envie de rester à l'école puis de devenir riches?
Est-ce que ça va leur
aussi,
donner envie de rester chez nous trop longtemps?
Ben, c'est ce que je crains, moi.
Je le sais pas, mais tu sais, il nous reste un peu de temps, je te raconte l'anecdote de ma première épicerie.
Ouais. Madame, il est où le caviar?
Non, mais
dans quelle rangée?
Moi, je faisais l'épicerie avec ma mère, puis une affaire où on chipait pas hâte chez nous, c'était la bouffe. T'sais, puis moi, je suis un peu comme ça aussi. Je trouve ça important, bien manger. Ce que tu mets dans ton corps, c'est ton véhicule. Je veux dire, moi, j'ai investi là-dedans.
Ben ouais.
Je me dis que c'est correct.
Moi, jusqu'au bout.
Je me fais à croire que d'être bobo avec ma mozzarella, du buffalo, c'est
tu
parfait.
Tu prends pas de la burrata?
Non, mon fils veut du confit de canard pour sa fête, puis je trouve ça merveilleux.
OK.
Bon, donc,
une cuisse correcte.
Je m'en vais à l'épicerie, première épicerie d'appartement. Là, ma mère m'a fait une petite liste de toutes les affaires qu'il fallait que j'achète. Là, tu sais, la base. Elle appelait ça un fond, ton fond.
Un trousseau.
Ton fond de garde-manger, tu sais,
ben
la farine.
Oui.
Bon, là, j'ai mis ça sur ma liste. Puis là, je me promène dans les rangées, puis je mets tout ce que j'ai envie dans panterie, tu comprends, dans mon panier. J'arrive à la caisse, c'était le métro à Rivière-du-Moulin en bas de la côte, je m'en rappelle encore. La madame, elle me dit quelque chose comme 312,20.
Ouf.
Mais on était comme en 1999, mettons. J'avais pas ça dans mon compte, Dani, tu comprends-tu?
As-tu fait un crise de saut?
J'ai eu des petites sueurs, de la petite eau qui me coulait entre les boules.
Oui.
Je suis repartie porter des items, puis je suis ressortie avec de la farine, du sucre, puis un peu de steak haché.
Oh! As-tu conté ça à ta mère?
Ah, oh, ma mère est très au courant de cette anecdote. Elle nous écoute en ce moment.
Elle dure
fort probablement. Ah, oui, elle nous écoute parce qu'elle dit les gens sont très endettés. Ma mère est planif, tu sais. Elle le sait, là. Mais c'est vrai que les gens sont endettés, puis c'est vrai qu'on est prêt à s'endetter pour correspondre à un certain standing puis le faire vivre à nos enfants. Puis finalement, c'est un cadeau empoisonné qu'on leur fait.
Oui, on s'étourdit avec des objets. Tu sais, ce
pas
qu'on
juste des
de...
objets. La classe ambitieuse, là, c'est bien plus que des objets. Nous, on fait partie. Tu sais, en 1980, tu avais quelque chose qui s'appelait... t'affichais tes signes de richesse comme une montre, une voiture, une maison. À cette heure, on est bien plus haute que ça. Nous autres, les bobos, là, on est la classe ambitieuse. Nous, c'est nos choix de vie. Donc, c'est plus ton gros char, c'est genre les voyages que tu fais, le type de vêtements que tu portes, ta marque de voiture écologique.
Oui.
Ça place la barre haute, puis c'est toutes des nobles intentions, là. Dépongue-toi après ça là-dedans, là. Bonne chance.
Quand j'ai beaucoup d'objets, moi, je deviens insécure. Parce que je capote, tu sais, mettons, il fut un temps où j'avais une cinquantaine de paires de souliers, tu sais.
Ah,
parce que
vrai?
J'aime ça, les souliers, moi
aussi,
tu sais.
Je n'ai pas 50 paires, par exemple.
Un moment donné, là, t'aimais où les Christy de souliers? Puis après ça, là, t'as trop de manteaux, t'as trop de linge, t'as trop de ci, t'as trop de ça. Là, ça te prend une plus grosse maison. Un moment donné, j'ai comme pogné les nerfs, là, je me suis mis à tout faire des sacs.
T'as fait une marque comme d'autres toi-même? Sparkle of Joy?
J'ai droppé du stock, là.
Ouais.
Puis. C'est encore trop.
Moi aussi, j'ai la maladie des manteaux. J'en ai 42. Ma mère aussi, c'est héréditaire.
Ouais, j'essaie de faire un tri là-dedans. J'essaie de faire de la place. J'essaie de me trouver des choses qui nécessitent peu d'objets. Puis j'y arrive quand même. Mais une fois que tu réalises ça, là, tu vois tout.
Non, mais
tu vois
les voyages, ça prend pas de place. Tu sais, tu comprends? Il y a tout ça, là. Tout notre mode de vie, ce qu'on veut, c'est à quoi on aspire. S'acheter un chat, tout ça.
Oui.
J'ai hâte de voir comment on va se comporter. Moi, je sais que j'ai eu peur. J'ai eu peur d'une précarité. J'ai eu peur de perdre ma job pendant la pandémie. J'ai eu peur de plein d'affaires. Et ça me fait revoir. Fait que je sais pas si ça sera tant les années folles. Moi, je consomme moins qu'avant. Beaucoup moins qu'avant. Mais je me fais des ongles. À demain, Dani.
Salut.
Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Dany Saint-Pierre est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio, tout comme sa série balado, L'Addition, un magazine sur la consommation et l'entrepreneuriat. Cube Radio. Vous écoutez
Geneviève Peterson.
Cube Radio.
direct avec Jean-Louis Fortin, qui est directeur de notre bureau d'enquête. Jean-Louis, salut.
Bonjour Geneviève, je ne fais pas relâche pendant la relâche.
Ben, j'ai envie de dire grand bien m'en fasse. Québec qui sera aujourd'hui, s'il y a de l'espoir de récupérer, tenez-vous bien, 13,9 millions de dollars en fonds publics qu'on a versé à un homme d'affaires qui a été reconnu coupable de fraude aux États-Unis, dans une histoire là, d'achat de masques N95, si je ne m'abuse. Et moi, je vais te dire tout de suite, Jean-Louis, que ce qui me renverse dans cette histoire-là, c'est quand je lis un truc comme « c'était à lui de nous révéler son passé frauduleux ».
C'est la même chose que toi qui me renverse.
OK, bon, expliquons c'est quoi l'histoire, là.
Oui, bien, on se rapporte au printemps, il y a à peu près un an, dans le fond, en mois de mars, on se rend compte qu'on a vidé la banque d'équipements médicaux. Au Québec, on s'est constitué une banque de 23 millions de masques au fil des années, puis plutôt que de la remplir, on l'a vidé petit à petit, puis on a arrêté d'en acheter, puis là, ben, la pandémie éclate, puis on n'a plus de masques. Pas commandé, puis on n'est pas les seuls. Hein? Tout le monde sur la planète cherche des masques. Donc, le gouvernement du Québec, en panique, a octroyé une série de contrats à un peu n'importe qui, il faut le dire. Parce que normalement, quand on. Surtout en matière d'approvisionnement, les fournisseurs doivent montrer par tranche. Au Québec, hein, on a l'ANP, là, l'Autorité des marchés publics, qui est censé un peu vérifier avec qui on fait affaire. T'sais. Donner un contrat à un fraudeur, effectivement, on essaie que ça se produise pas, on essaie d'éviter. Mais plus on fouille sur des contrats qui ont été donnés, c'est quand même des milliards de dollars, presque 4 milliards au Québec, total de contrats, on se rend compte que ces vérifications-là, au printemps passé, à cause, entre autres, de la situation d'urgence.
Oui, on était à 3 jours près, là. Moi, je me rappelle que le premier ministre nous disait il nous reste 2 jours de masse, 3 jours de visa. Mais moi, ma question est assez simple. Oui. Pourquoi on a payé avant d'avoir le stock? Il me semble que.
Malheureusement, c'était ce qu'il fallait faire en mars et en avril dernier pour avoir la marchandise. Tu payais cash, c'est-à-dire pas en billets, pas en argent comptant, pas une pile de 20 $ mais tu faisais
pas des valises bancaire.
Okay. Non, mais un transfert bancaire, là, donner le numéro de compte en banque, l'argent investi, l'argent transféré. Et une fois que l'argent est à destination, la commande est considérée comme complétée. C'était les exigences du marché. Donc, c'est ce qui s'est passé au Québec. C'est le CHU de Québec qui était responsable de tous les contrats d'approvisionnement de la province. Et ben, dans le cas qui est dévoilé par notre bureau d'enquête aujourd'hui, la commande de masques donc était passée à une entreprise américaine, Tree of Knowledge, via un de ses principaux dirigeants, Michael Caridi. Et l'argent a été envoyé donc directement à une compagnie qui était à son adresse. Lui, une grosse maison. Un château d'à peu près 3 millions de dollars au Connecticut. Et donc, il a reçu l'argent, mais ce qui devait arriver. On n'a jamais reçu les masques. On en aurait reçu une très petite quantité, mais ce n'est pas ce qu'on voulait. Ce n'est pas des N95, c'est des KN95. Et donc, là, un an plus tard, Québec tente vraiment de se faire rembourser, mais on comprend que l'argent n'y est pas. Et là, ce qui est écrit, c'est ça. Donc, le CHU de Québec dit bien candidement, ben là, si M. Caridi nous avait dit qu'il était un fraudeur, on lui aurait pas donné de contrat.
parfait. Mais où est notre argent, dis-moi donc?
Ben là, l'argent a été encaissé par M. Caridi, si on le sait, là, si on l'a perdu. Ouais. On l'a plus, mais les masques, on ne les a jamais reçus. Là, ce qu'on attendait aujourd'hui, et ce qui n'a pas eu lieu, c'est qu'il y avait un spécialiste qui avait été mandaté là, pour faire par la cour pour faire une évaluation des passifs et des actifs de notre fraudeur en question. Là. Dans le fond, ce qu'on voulait savoir aujourd'hui, c'est on a-tu vraiment une chance de se faire rembourser ou le gars il est insolvable et il reste 22 piastres dans son compte en banque.
Oubliez
ça, le 14 millions. Et on n'a pas reçu le rapport aujourd'hui. Le rapport n'a pas été présenté à la cour, mais ce qu'on me dit par contre, c'est que le juge, là, ça a été remis à une date ultérieure, mais le juge était très, très sévère, très, très critique. Là. Il dit, ben là, on allègue que vous avez volé beaucoup d'argent au gouvernement du Québec. Donc, ça regarde mal. Moi, je...
Mais M. Caridi a dit quand même, Jean-Louis, qu'il était au cœur d'un litige avec le gouvernement québécois qui serait bientôt réglé.
Oui, sauf que ce serait bientôt réglé, sauf qu'ultimement, le dossier, si c'est en cours, c'est parce que les négociations, l'entente à l'amiable... Les négociations hors cours n'ont pas fonctionné.
Ben, moi,
je suis aussi optimiste que
Je suis zéro optimiste. Moi, je suis ironique.
Ouais. Mais tu sais, c'est pas la première fois qu'il y a qu'on paye dans le vide un peu pour la COVID. Hein? Mm. On avait sorti, évidemment, il y a quelques semaines, c'était encore plus d'argent, c'était 45 millions de dollars qui avaient été versés à un entrepreneur de Brossard, Michel Ledoux, pour des masques. Mais ce qui s'était, heureusement, dans ce cas-là, la banque avait comme tiré la sonnette d'alarme et dit, hey, pour ça que ça va se faire, cette transaction-là, il y a une certaine irrégularité. Et le contrat a été bloqué. Donc, au moins, le gouvernement a eu retour des fonds. La banque n'a pas autorisé le décaissement de 45 millions. Alors, dans le cas qui nous concerne ce matin, le 14 millions avait été dépensé. Puis, ça m'amène à parler un peu de la transparence, tu sais, parce que le gouvernement s'en cache pas, là. On a deux exemples concrets avec des noms d'entreprises, des visages de gens qui ont pris de l'argent puis qui ont rien donné en retour, mais il y en a d'autres. Mais le gouvernement ne veut pas nous dire c'est qui, c'est quelles entreprises, c'est quel montant d'argent. Tout ce qu'on nous dit, c'est que ça s'est produit. Donc, il faudra surveiller, entre autres, les tribunaux. Là, je pense que c'est un peu la seule voie qui reste au gouvernement du Québec. Mais c'est pour ça que quelqu'un qui est insolvable ou qui a fait le même coup à d'autres juridictions ou que c'est un modus operandi qui est répété, là, qui a des chances de récupérer l'argent.
Oui, puis ça coûte de l'argent aux contribuables pour suivre aussi là, des gros, gros montants.
Ah ben oui, il y a des frais d'avocat. Mais tu sais, on n'est pas plus bête que d'autres juridictions. Moi, je suis pas mal convaincu que les États-Unis ont signé des contrats qui n'ont jamais vu la couleur des marques qu'ils avaient commandées, que l'Ontario, que les autres provinces canadiennes...
Oh, on était dans l'urgence, puis il fallait agir, puis on n'avait pas trop le temps de faire du back-checking. Là. Je pense qu'on comprend ça. On n'a pas les détails qu'on s'attendait aujourd'hui. Là. Vous allez suivre ça, j'imagine. On va regarder dans le Journal de Montréal pour la suite des choses. Rapidement, Jean-Louis, dossier qui a fait pas mal jaser en fin de semaine, des athlètes plus chanceux en sport qu'en affaires.
Oui, ben, tu sais, les athlètes souvent qui gagnent qui sont millionnaires, on va le dire, puis l'image fait vendre, hein. Donc, si Guy Lafleur est associé à un restaurant, on pense que les gens vont vouloir aller au restaurant parce que c'est Guy Lafleur. Ou en tout cas, dans d'autres situations, on approche les athlètes, on les convainc d'investir dans toutes sortes de patentes à gosse, entre guillemets, d'entreprises, et ça va fonctionner. Bon. Ou pas. Et là, ce que mon collègue Jean-François Cloutier, donc, il faut dire, ça a été des démarches de longue haleine de convaincre les sportifs de parler, des Hassoun Kamara, Didier Drogba, Luc Robitaille, Donald Brashear, Francis Bouillon, Georges Larac, il y en a beaucoup de joueurs de hockey, en fait, qui n'ont pas eu la main heureuse en affaires, des fois par leur propre faute, ou des fois parce qu'ils ont été un peu victimes d'associés, de partenaires d'affaires, qui, justement, avaient besoin de leur nom, de leur notoriété, pour faire avancer la business, mais le plan d'affaires n'était pas très bon, puis ça s'est écroulé. C'est super intéressant. Il y a quand même des joueurs qui, très, très candidement, se sont confiés à nous, qui ont dit, ben effectivement, si c'était à refaire, j'agirais différemment, ouais, j'ai appris une bonne leçon. Il y en a d'autres qui n'ont pas voulu nous parler, mais donc, ce qu'on constate, là, c'est que c'est pas parce que tu es millionnaire que tu as gagné.
Oui, il faudrait qu'il y ait du coaching pour apprendre à ces athlètes-là à gérer leurs millions. Pour vrai, ça, c'est un problème qu'on a depuis longtemps, puis pas juste dans le sport professionnel. Quand tu fais beaucoup d'argent très jeune, tu n'as pas d'expérience, tu n'as pas nécessairement le sens des affaires. Il faut que tu sois accompagné comme il faut.
Oui, c'est super important. Souvent, bon, c'est des gens qui ont malheureusement pas eu des formations académiques universitaires et tout ça. Donc, c'est pas nécessairement leur force, la gestion financière. Puis, c'est pas toutes des histoires d'horreur. Il y en a des athlètes qui ont réussi puis qui sont devenus des gens d'affaires avisés et prospères. Mais donc, la série qu'on présente, c'est donc des athlètes où ça fait moins bien déroulé. Donc, il avait connu la gloire et la richesse sur la glace ou sur le terrain, mais après ça, dans leur après-carrière, ça s'est mal passé. Je pense que c'est une bonne leçon pour un jeune qui débarque dans la Ligue nationale, qui commence à avoir des bons contrats dans n'importe quel sport, qu'il soit bien encadré, que les équipes aussi, peut-être, mettent en place des processus.
Ben oui, puis ça montre aussi au public que c'est pas parce que tu as fait des millions au hockey que nécessairement le reste de ta vie se passe sous la même étoile. On peut lire tout ça dans le Journal de Montréal, dans le Journal de Québec, sur le site Internet pour ce dossier-là. Ouais. Jean-Louis, merci.
Ça fait plaisir. À la semaine prochaine.
Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
Vous écoutez
Geneviève Peterson.
Cube Radio.
Lundi, on est avec Alexandre Moranville-Ouellet. Salut, Alex.
Salut, Geneviève.
Nouvelle qui vient de tomber récemment. Fusillade qui a lieu cette nuit à Longueuil. Balle perdue à l'hôpital Pierre Boucher.
Ouais, un homme de 24 ans qui a été arrêté là, dans la nuit, donc de dimanche à aujourd'hui, à Longueuil. Une fusillade qui serait survenue là, proche du boulevard Béliveau, un peu après minuit. Deux hommes qui se sont rencontrés, deux connaissances. L'homme de 24 ans qui a été arrêté et son rival, un homme de 30 ans, qui se serait uni pour une raison qui est toujours inconnue. Trafic de drogue et autres. Là, on spécule pour l'instant, mais il n'y a pas...
C'est pas pour faire un duel, là. On s'imagine
non,
bien.
Non, c'est pas pour faire un duel. Il aurait discuté, puis soudainement, le suspect aurait tiré une arme longue de sa voiture pour faire feu en direction de l'homme.
Des gens qui ont des liens avec le milieu criminel ou on sait pas?
Pour l'instant, on n'a aucune idée. Okay. Quatre coups de feu qui ont été tirés à l'aide, donc c'est pas un pistolet, là, c'est vraiment une arme longue. On sait pas encore le calibre et tout, mais ces projectiles-là, un d'entre eux, de ces quatre-là, aurait franchi plus de 200 mètres, puis il est allé fracasser une des fenêtres du troisième étage de l'hôpital Pierre Boucher, qui est pas très loin de là, où se trouve une salle d'attente du département d'ophtalmologie. Heureusement, personne n'a été blessé, mais quand même...
C'était la nuit, là.
Ouais, c'est ça, absolument. Là, une balle qui a traversé d'un bord à l'autre.
C'est inquiétant.
Puis, une salle d'attente en ophtalmologie, heureusement, tu le dis, la nuit, c'est pas actif, mais ça aurait pu être dans une autre salle où il y a des gens. Là, un hôpital, ça ne dort vraiment jamais. Le suspect a pris la fuite après ça en voiture, mais il a été localisé rapidement quelques kilomètres plus loin. On dit, entre autres, du côté de la police que ça a été plus facile parce qu'il n'y a personne hein, sur les routes à cette heure-là en raison du couvre-feu. Il y a presque personne qui circule. Donc, on l'a retrouvé rapidement, retrouvé également à l'arme longue dans son véhicule. Donc, bon, pour l'instant, on est en attente.
Heureusement, on n'a pas de blessés dans cette histoire. Propriétaire du Toronto Star qui lance un casino en ligne pour financer leur journal. Je n'ai qu'un mot en tête.
C'est une idée.
Éthique.
Ouais, mais c'est une idée un peu hallucinante. C'est Torstar Corp qui possède, entre autres, le Toronto Star, le Hamilton Spectator aussi, et d'autres journaux papier qui ont annoncé aujourd'hui qu'ils voulaient lancer un casino en ligne, casino virtuel comme ça existe déjà, qui va être facilité par les nouvelles lois qui entrent en ligne en Ontario sur justement le jeu en ligne et veulent prendre les profits qu'ils vont retirer de ce casino en ligne-là pour financer le journalisme de qualité et garder leurs journaux à flot. Je voulais entendre ta pensée là-dessus, Geneviève, parce que on cherche depuis longtemps, puis ça peut sembler un problème.
Très circonspect. C'est sûr qu'on peut pas nier qu'on a une crise absolument incroyable dans les médias, générer du revenu pour générer des contenus de qualité. Mais c'est le même problème que j'ai avec l'Auto-Québec, en fait, là, c'est de financer un besoin. Là, dans le cas de l'Auto-Québec, c'est un besoin étatique. Là, c'est le besoin d'un intérêt privé avec du jeu. Quand on sait à quel point il y a des gens qui ont des problèmes de jeu compulsifs, je sais pas. Il y a une partie de moi qui est éminemment mal à l'aise avec tout ça, puis je trouve que venant d'un organisme de presse prestigieux comme le Toronto Star, je trouve ça particulièrement malvenu. En même temps, je peux comprendre. Ça fait très, on est désespéré là. Tu sais, après ça va être quoi? Ils vont faire pousser du pot?
Ben, c'est, non, mais la question se pose quand même parce qu'ils disent que selon les données du gouvernement de l'Ontario, c'est à peu près 500 millions de dollars par année qui se dépensent dans le jeu en ligne.
Ben oui.
Puis ils disent que la majorité
sur les sites de porno aussi, est-ce qu'ils ont pensé se lancer en pornographie? Parce que ça aussi, paraîtrait-il que c'est éminemment lucratif. Je sais pas si on pourrait financer du journaliste de qualité à l'aide de gangbang et de glory hole filmé. Je sais pas, rendu là. Je veux dire, rien n'arrête le Toronto Star.
Je peux comprendre, mais ce qu'ils disent, attends un peu, comme argumentaire, c'est que la plupart des sites déjà de jeux en ligne, sont vraiment déjà dans une zone grise. C'est souvent des sites qui sont possédés.
Déjà shady, par le crime organisé.
Ils disent c'est souvent possédé justement par des intérêts. Ben, c'est la plupart
c'est
du temps, étrangers.
C'est mieux que ça soit nous autres qui s'en occupent qu'ils autres, mais le problème,
c'est que ça financerait le journaliste de qualité, quand même. Ben, quand même. Si... If you can beat them, join them, qu'ils disent en anglais.
Je pense que c'est un excellent exemple de tout ça, mais j'ai pas l'impression que ça va très, très bien passer auprès des lecteurs.
Non, c'est certain, tu le dis, il y a un enjeu éthique, mais disons, c'est une nouvelle manière de faire les choses. C'est pas encore fait, c'est leur intention qui est annoncée là, officiellement aujourd'hui.
Bref,
de vouloir aller là-dedans.
Le Toronto Star, je veux dire, tant que...
Du moonshine, ben oui.
Du moonshine, du vin, pourrait cultiver du pot, faire de la porno. Hein?
Rien n'arrête le journaliste moderne.
Sérieux, qu'on en soit réduit à ça. Moi je préférerais qu'on reçoive des subventions du gouvernement. D'ailleurs, ils sont rendus où ces subventions-là? Moi, mon chèque, par ailleurs, que François Legault me doit là, pour avoir parlé de mon film en point de presse, je l'entends toujours, il est toujours dans ma Alex, toujours pas reçu.
Perdu dans mal.
Merci Alexandre Moranville. On te retrouve dans quelques instants avec Mario Dumont. Merci à Frédéric Moncol à la recherche, Sébastien Laperrière à la mise en onde. Merci à vous les auditeurs. On se retrouve demain à 13h.
Cube Radio.